Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite démogorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, ça tient pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette fête!
God, please, no! 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 No!
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir Mathilde, comment ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va très bien. Ce soir, nous accueillons une nouvelle membre autour de la table.
Oui, tout à fait.
Je vous demande d'applaudir et vous aussi qui nous écoutez d'applaudir Maëlys.
Bonsoir.
Qui dit octobre dit Halloween, citrouille, fantômes, vampires, films d'horreur, séries effrayantes. Et qui dit octobre 2023, dit aussi baignade, coup de soleil, température au-dessus des normales de saison. Et comment vous dire que cette année, bah, octobre...
On a grillé en enfer, quoi.
Oui, voilà. Ah, c'est bien, bien rattrapé.
Je sais.
J'allais vous dire que octobre n'a pas vraiment beaucoup laissé de place à l'automne et aux frissons cette année.
Malheureusement.
On a quand même réussi à se mettre dans l'ambiance à la fin du mois, quand on est soudainement passé en mode hiver et qu'il s'est mis à faire 10 degrés soudain, tout d'un coup. Et c'est à ce moment-là qu'on en a profité pour nous cacher sous des plaids, pour nous faire peur devant des films et des séries. Alors comme chaque mois, on va vous parler des séries et des films, des documentaires et parfois des spectacles qu'on a vus sur les plateformes. Bref, on vous récapitule tout. Et ce mois-ci, on va vous parler de Sex Education saison 4 sur Netflix, de The Haunting of Bly Manor sur Netflix, du mauvais esprit d'Halloween sur Netflix et de la chute de la maison Usher sur Netflix.
Également.
Autant vous dire que ce mois-ci, on a rentabilisé l'abonnement.
C'est que du Netflix, quoi.
On a regardé d'autres trucs, vous inquiétez pas.
Et tu dis juste bonjour Maëlys, tu dis pas genre c'est qui Maëlys, petite présentation si elle a envie de se présenter et tout. Non? Quand même.
Je voulais pas la mettre dans cette panade.
Oh bah quand
et
même.
Bah, du coup merci Mathilde.
C'est bien de se dire un petit mot.
Bah, moi c'est Maëlys, c'est mon premier podcast donc soyez gentils avec moi.
Mais ouais. Les gens sont hyper gentils.
Oui, super. On est tous bienveillants.
On passe aux actus?
Oh let's go.
Max arrive en France, l'annonce est arrivée pendant le mois d'octobre. Max, la plateforme qui avait un meilleur nom quand elle s'appelait HBO Max, arrivera en France pendant l'été 2024.
C'est juste Max maintenant?
Oui.
Ah, c'est vraiment, ça aurait pu être mon voisin quoi.
Ah oui, oui, oui.
Okay.
Genre un étudiant de 25 ans, espagnol, très sympathique. La plateforme arrivera en même temps chez nos amis belges, mais un petit peu avant dans d'autres pays européens comme l'Espagne ou les Pays-Bas. On n'a pas de prix, mais si on regarde ce qui se passe outre-Atlantique, actuellement, pour avoir deux écrans sans pub, il faut payer 16$.
Sans pub?
Sans
aussi
pub,
font la pub.
Avec de la pub, 10$.
Oh non, mais va
non,
te
l'inverse.
Cuire un œuf.
Non, c'est ça, c'est, pardon,
Monsieur
c'était
Max.
Ça.
Toutes les plateformes vont le faire, du coup.
Bah oui, Disney Plus va s'y mettre aussi.
Oui, j'ai entendu
et
ça.
Et pour 4 écrans en 4K, c'est 20$. Et donc, il faut s'attendre à ce que ça soit à peu près pareil en France, mais c'est hyper cher.
C'est méga cher. J'espère qu'ils auront un bon catalogue. Qu'est-ce qu'il y a sur HBO Max? Ah bah, Game of Thrones.
Il y a Game of Thrones, il y a The Last of Us.
Ah oui,
The Last et puis après, il y a des trucs...
Il y a des trucs... En vrai, les séries HBO sont cool.
Il y aura
en vrai.
Sans doute Friends.
Ils vont piquer Friends à Netflix.
Ah, c'est sur Netflix, c'est vrai. Enfin, en gros, c'est tout ce qui appartient à Warner, quoi.
Ouais, ça fait un gros catalogue, quand même.
C'est un gros, gros, gros catalogue. Autrement, tant qu'on parle de prix, tout augmente. Ça y est, c'est le festival des augmentations.
Moi, j'ai vu Hugo Décrypte et tout. Il a dit à partir du 1er novembre, là, le gaz, l'électricité, l'eau, tout
ah, oui.
et tout.
Oui, mais nous, on n'est pas Hugo Décrypte.
On se concentre.
on va rester sur les plateformes, mais c'est déjà pas mal. Pour Apple TV+, on ne sait pas trop à partir de quand, mais on se prend des plus 3 euros comme ça. Donc, l'abonnement va passer de 7 euros à 10 euros.
Vraiment, vu le catalogue, enfin...
Ça fait très cher. Hein. Pour Netflix, l'offre essentielle passe de 9 euros à 11 euros. L'offre premium passe de 18 euros à 20 euros.
Oh non.
Et heureusement, non, pas du tout. L'offre standard avec pub reste à 6 euros, trop sympa. Et l'offre sans pub reste à 13,49 euros.
T'as pas oublié Disney Plus aussi qui fait
Disney Plus, on a déjà parlé la semaine
ouais,
le mois
pareil,
dernier.
Du coup, aussi.
Ah oui, c'est pour ça. Vous savez ce qui va augmenter aussi dans les mois qui viennent?
Non.
Le téléchargement. Évidemment. Mais là, ça devient abusé. On peut plus. On peut plus. On va plus pouvoir, quoi.
On va plus pouvoir faire le podcast. À part si on ouvre un Tipeee. Non, c'est un Tipeee.
Tipeee. Ça n'existe
ouais.
plus, Tipeee.
Ah ouais, ça n'existe plus.
Attends.
On est vieux,
oh
c'est bon.
Je suis foutu.
C'est fini.
Attends. Il y en a une qui a fermé. Patreon, ça existe.
Ah, c'est Patreon. On peut ouvrir un Patreon.
Mais je crois que Tipeee, ça a fermé l'année dernière. Bonjour, c'est le Emilien du montage. Je voulais corriger ce que je dis parce que je dis souvent des bêtises. Tipeee va très très bien, c'est Utip qui nous a quittés. Et Patreon va très bien aussi. On les embrasse. Et voilà, bonne journée.
Si on ouvre un Patreon, est-ce que vous nous financez pour qu'on puisse regarder des séries? Ça serait vraiment trop bien.
Payer pour regarder des films, c'est top.
C'est le métier de beaucoup de monde.
C'est vrai, pas le nôtre.
J'aimerais bien.
Inch'Allah.
Nous, on est payé pour lire des livres.
C'est écoute, vrai, c'est vrai.
Chacun son truc.
On passe au Hypito.
Pito. Ce qui est génial avec le Hypito, c'est qu'on en a parlé, j'ai dit que j'en avais pas. Et puis finalement, bim, il y en a trois d'un seul coup qui sont atterris en quelques minutes
c'est
après.
C'est
ouf, ça aide des souffles.
Oui, ils t'ont entendu, c'est pour ça.
Alors, mon premier Hypito, c'est le trailer de 4 jours numéro 8 que j'ai vu sur Crunchyroll. Je l'ai vu genre comme ça, j'étais sur Insta, je crois, et bim, le trailer est arrivé. Vraiment, les premières images des character design étaient dégueulasses. Ils étaient horribles. Le manga est trop bien, mais le truc qu'on a vu, tu les avais vus aussi, je crois, ils étaient trop moches.
Ça correspondait pas au manga.
Non, c'était vraiment horrible. Et là, j'ai vu la bande-annonce et vraiment, ça pète. Donc, potentiellement... Ça va être trop cool et ça sortira en avril 2024.
D'accord.
Encore un peu de patience.
Et le deuxième Hypito, c'est aussi un anime. On a appris qu'il allait être adapté. Enfin, je savais déjà qu'il allait être adapté. Mais pareil, il sera diffusé en avril 2024. Retenez cette date, avril 2024, vraiment. Apparemment, c'est...
Le mois tout.
C'est le mois. Et vous pourrez regarder Windbreaker. Alors, si vous ne connaissez pas Windbreaker, je vous invite à aller en librairie et acheter le manga. Le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont actuellement disponibles chez Pika, je crois. Pour le prix de 7,20€ 10 20,
je crois que c'est 20.
Tu me demandes ça à moi, je n'en sais rien.
Allez, foncez, allez-y. Et le dernier épito, on change du tout au tout, on arrête les animés. Et j'ai vu la bande-annonce de l'épisode de Doctor Who, l'épisode... c'est comme un épisode de Noël, c'est l'épisode de Noël.
Non, c'est l'épisode des 60 ans.
Ah,
enfin,
c'est encore différent.
Le premier des trois épisodes des 60
mais
ans.
Mais c'est le même principe que les épisodes de Noël de Doctor
c'est
Who.
C'est des specials, quoi.
Ouais, c'est des épisodes spéciaux. Et y a David Tennant dedans, donc...
retour.
Je suis trop hypée, vraiment. On a trop de retard sur Doctor Who, donc je sais vraiment pas ce qui se passe, mais... J'ai vu ça, j'ai juste envie de m'enfermer chez moi pendant un mois et de regarder tout Doctor Who. Donc désolé, je vais pas y travailler pendant un mois. Et voilà. Et sinon, j'ai trop hâte de voir... Alors par contre, je ne sais pas prononcer son nom. Je crois que c'est Nkutie Gatwa.
Je l'aurais dit comme ça aussi.
Ouais,
désolé
si j'ai complètement mal dit. Mais j'ai hâte de le découvrir dans ce rôle de docteur. Je pense que ça va être trop, trop cool. Et pour information, il a 30 ans. Il est né en 92, comme nous. Enfin, comme moi et Amy, on ne vieillissons pas trop, Maïs.
S'il vous plaît.
Et vraiment, ça a l'air trop bien. Mais retenez cette info de sa date de naissance. C'est très important pour la suite. Très important.
Ça dit ça. Et Maëlys, tu as un Aipito aussi.
Oui, j'ai aussi mon Aipito. Encore une annonce de manga, bien évidemment, on reste dans le thème pour le moment. C'est la saison 3 de Blue Exorcist qui va sortir en janvier 2024, très très vite. Du coup, j'ai super hâte, que ça fait des années qu'ils n'ont pas fait de saison 3, enfin de saison. Oui. Et ils s'étaient arrêtés à un film et du coup, enfin la suite en animé. J'ai trop hâte de découvrir les openings parce qu'ils étaient tous super bien, trop hypés.
Elle est trop cool cette série.
Ce qui est rigolo, c'est que sans se concerter, Maëlys a prolonger la tradition que Damien a initiée, que Damien et Damien reviendra, j'en profite pour le dire, c'est que son Aipito, c'est une annonce de série.
On va arriver. Non, mais par contre, on a commencé le podcast, ouais, il y a une nouvelle invitée, c'est Maëlys. Personne n'a dit où était Damien.
C'est vrai, il a disparu.
Genre, le dernier podcast, il n'était pas là.
Damien
là,
va bien.
Et on arrive et il y a une nouvelle personne. C'est alors, vrai. Damien va bien, il est en vacances au Portugal, donc il ne pouvait pas enregistrer.
Et comme on voulait pas faire deux épisodes de suite à deux,
on a invité
à Maëlys
qui nous a répondu favorablement.
Et mais voilà.
Et du coup, oui, Maëlys continue la longue tradition de Damien de parler d'un truc qui va sortir.
De juste dire cette série va arriver, ça, je suis content.
Bon, c'est ce que j'ai fait aussi. Ça va. Non, Damien, il aurait dit. Je suis en train de regarder The Witcher, c'est trop bien. Tu vois, ça aurait été plus ça.
On charrie, mais c'est très bien. On va maintenant passer aux séries du mois d'octobre.
Et je débute le marathon avec Sex Education, la saison 4, qui comptait 8 épisodes de 55 minutes. La date de sortie inconnue, c'est sorti.
Inconnue, la malhonnêteté
non,
intellectuelle.
Je pense
quoi.
C'est sorti genre là, en octobre.
Là.
Non,
bah, oui. C'est pas sorti le 16 septembre, je sais plus.
Bah, c'est sorti à un moment donné, il y a pas très longtemps. Écoutez, c'est dispo sur... Est-ce qu'on s'en...
Ah bah non, on est un podcast précis normalement.
C'est dispo sur Netflix, c'est une nouvelle et dernière saison pour cette série qui a bousculé les séries
teenage,
j'allais dire ado, on était sur la même longueur d'onde. Pour résumer, la rebelle Maeve entraîne Otis, inexpérimentée mais dotée d'une mère sexologue. Je reprends ce résumé à chaque fois et je me dis, on se demande qui est expérimenté. Pourquoi direct on parle de sa mère, on sait pas. Dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Alors ça, c'est le résumé, grand résumé.
De la saison 1.
Je vous fais un petit résumé on se remet à la saison 4. Pour rappel, le lycée où ils étaient tous a fermé. Je ne sais plus pourquoi, écoutez.
Moi non plus, je me suis demandé.
Il n'est pas brûlé ?
J'ai pensé, mais je ne sais plus.
Ah bon.
Maeve est partie faire des études aux États-Unis. Otis et les autres commencent une nouvelle vie dans un nouveau lycée qu'ils ne connaissent pas. Mais surprise, une personne nommée O tient déjà un cabinet de sexologie dans ce nouveau lycée. Commence alors une bagarre pour savoir qui est le ou la meilleure sexologue.
D'accord.
Ah, et là, ça rigole pas. Alors Maëlys, qu'est-ce que tu as pensé de cette série ? Je te laisse débuter. De cette saison, désolé. Oui. Ou de la série en général, tu peux aussi.
Bah, j'ai bien aimé les précédentes saisons. Celle-ci était un peu moins intéressante. Je l'ai trouvée un peu moins réaliste. Parce qu'à un moment donné, il y a Otis qui fait une présentation pour du coup valoir son droit de cabinet de sexologie. Et sauf que sa présentation foire un peu parce qu'il montre des photos un petit peu objectifs et tout ça. Et,
Il est un peu olé,
voilà.
Il a clairement pris des photos de son pénis.
Voilà, et qu'il a divulgué sans faire exprès devant tout son lycée. Personne n'a vraiment relevé, personne n'a vraiment trop parlé, alors que dans la vraie vie, ça n'aurait pas passé du tout comme ça.
Ouais.
Il serait fait lyncher, il serait fait détruire sur le réseau et même dans sa vie au lycée, alors que là, bah, c'était tout gentil. Franchement, il y a eu juste 2-3 blagues en mode « Ah oui, c'est toi le mec qui a montré des photos de son pénis ». Il y a eu juste ça, donc pour moi, c'était pas très réaliste, donc j'ai trouvé ça dommage parce que c'est important aussi de montrer bah, du coup, la réalité des faits pour ce genre de choses, que ça arrive comme à beaucoup de gens.
Est-ce que c'est pas parce que comme il y a déjà un cabinet de sexologie, le lycée est déjà éduqué ?
Ah, possible. Ah, non mais ouais. En plus c'est parce que c'est un lycée spécial, on en parlera dans quelques instants.
Et mon deuxième point que j'ai un peu moins apprécié, c'est que je trouve que Otis est assez détestable dans cette dernière saison.
Vraiment, moi je l'ai trouvé détestable depuis tout le temps.
Ah ouais, bah j'ai pas fait trois gaffes, tu vois.
Ouais, c'est pas vrai, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement.
Mais là, j'ai trouvé détestable parce qu'il disait vraiment, oh, il faut comment ça, c'est toujours moi qui a créé ça, comme si c'était vraiment le dieu de sociologie.
Bah c'est un homme.
Voilà, c'est moi de non, mais comment elle a pu voler mon idée alors que bah ils sont jamais connus jusqu'à maintenant, donc plusieurs gens peuvent avoir les mêmes idées et c'est chouette.
Des femmes peuvent avoir les mêmes idées que les hommes.
Wow, incroyable, je ne savais pas.
Oh là là, quel étonnement.
Donc j'avais envie de le claquer plusieurs fois dans la dernière saison. Quoi.
Oui, je comprends, je compatis. J'ai ressenti ça aussi. Non mais oui, je suis plutôt d'accord. Personnellement, moi, ma saison préférée de Sex Education, c'est la 2. Je trouve que la 2 était vraiment incroyable. Je la kiffe de ouf. La 3 était pas mal, mais déjà sur le déclin. Et je pense qu'il était temps que ça s'arrête. Hein. On avait du mal à croire que le casting était toujours au lycée, non ? Je
sais
pas, je vous ai parlé de l'âge d'un des acteurs tout à l'heure, 31 ans. Voilà. Otis avait 26 ans.
Moi, je trouve que, étrangement, je trouve que c'est Otis qui fait le moins crédible.
Non, moi, c'était pas lui, c'est celui qui était le copain d'Eric. Je sais plus comment il s'appelle.
Ah oui, je vois qui c'est, mais je sais plus.
Celui qui fait du cheval là, dans cette saison. Ouais. Et bah, lui, pour moi, j'y croyais pas du tout. Alors qu'en vrai, j'ai regardé et je crois qu'il a 27 ou 28. Mais déjà, c'était trop bizarre. C'était trop louche. Après, moi, j'ai pas trop compris ce que voulait dire la série. Parce qu'en fait, on arrive dans un nouveau lycée, et dans ce lycée, en fait, il s'avère qu'on peut qualifier les élèves et le lycée de woke, tu vois. Donc tout le monde arrive, tout le monde est en mode super inclusif, ils utilisent les bons pronoms, ils s'habillent comme ils veulent, les classes sont ouvertes, il y a des trucs pour méditer, plein de salles et tout un peu particulières. Vraiment, on dirait un lycée de hippie, tu vois.
Mais vraiment. C'est une école autonome, en fait, parce que même eux, ils font leurs propres cours ou quoi que ce soit, c'est...
Et du coup, vraiment, quand tu vois les autres élèves qui arrivent là, le jugement. On arrive vraiment dans un jugement, genre, ils la regardent comme si c'était des gros tarés, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce lycée ? D'où il y a besoin de tout ça ? Tu vois, c'est vraiment dans le jugement de ouf. Mmh. Et j'ai eu l'impression que petit à petit, ils essayaient de démonter ce type d'enseignement. J'ai trouvé ça un peu chelou.
Genre le nouveau lycée ? De dire, c'est pas bien ce que vous faites ?
Bah, j'avais l'impression que c'était un peu ça, tu vois. Oh.
Ouais, en fait, moi j'ai l'impression que quand ils sont arrivés dans ce nouveau lycée, ils voulaient imposer leur façon de faire à eux, toi. Surtout Otis, du coup.
Ouais, surtout Otis, ouais.
C'est bizarre.
Et personnellement, moi, Otis, j'en ai trop marre. Vraiment, Otis, Maeve, dans cette saison, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment inintéressants comme personnages. Ah, peut-être Maeve un peu plus intéressante. Malheureusement, il lui arrive un drame, sa mère décède. Et donc, à ce moment-là, ça pose beaucoup de questions sur d'où on vient, où on va. Est-ce que quand on vient de quelque part, pas de mal, mais genre quand tu as rien dans la vie, est-ce que tu peux essayer de monter dans la société ou d'essayer d'avoir des ambitions parce qu'on t'a rabâché toute ta vie, que t'étais personne, tu vois. Donc Maeve est un peu dans ce truc-là, donc ça, je trouve que c'est super intéressant comme discours. Et à côté de ça, vraiment, Otis, la jalousie, quoi. Vas-y, t'as quel âge ? 12 ans Non, mais la distance, la jalousie, vraiment des thématiques qui m'ont pas du tout, qui m'ont pas du tout plu. Et à côté de ça, on a quand même des personnages genre Aimé qui est toujours là. Et on suit sa reconstruction après l'accident dans le bus où elle s'était fait... Elle s'est fait agresser dans le bus. Et elle a un trauma là-dessus. Et en fait, elle essaie de guérir de ce trauma grâce à l'art. Et ça, je trouve cette partie ultra intéressante. Et j'ai adoré vraiment toute la partie sur Eric où en fait, il est issu d'une famille super croyante. Et on le voit au sein de son église et comment il est coupé en deux entre sa famille, son église et la communauté LGBTQIA+, à laquelle il appartient, le fait d'être queer. Et en fait, il se rend compte que l'église ne veut pas accepter ça, mais lui, il croit en Dieu. Du coup, c'est super, c'est vraiment j'ai trouvé vraiment cette partie super intéressante, tu vois. Tout ce remis-ménage dans sa tête, comment je dois faire et tout, pour au final arriver et dire, moi je suis queer. Et moi, je crois en Dieu et je pense que je vais devenir prêtre ou pasteur, tu vois. Enfin, vraiment toute cette partie, elle m'a trop, trop plu. Et sinon, décevant, le final, pas ouf.
Ouais, à part ces deux personnages-là, c'était pas très intéressant. J'ai adoré vraiment Aimé qui, du coup, enlève son pantalon et le brûle. Oui. Comme si c'est bon, elle avait enfin tourné la page, c'était super beau.
Et la série de photos qu'elle fait. J'ai bien aimé aussi un peu le moment où au lycée ils font un sitting parce que l'ascenseur marche pas pour la personne à mobilité réduite. Ça, c'était cool. Et que en fait, on voit plein d'élèves qui sortent un peu partout et qui ont tous des handicaps divers. et ils prennent tous la parole. Et en gros, t'as les autres élèves, les populaires qui sont en mode « Tu connais cette personne ?»« Non, je l'ai jamais vue. Ah bon, bah, elle est dans notre cours de maths, pourtant. » Tu vois, genre, ils réalisent qu'en fait, ils invisibilisaient totalement les personnes handicapées. Ça, je trouve ça cool aussi. Mais vraiment, il y a plein de petits trucs cool. Et en même temps, je me suis fait chier vraiment 50% du temps en regardant la série.
Encore une série qui s'est finie trop tard.
Ouais, je pense qu'ils auraient dû arrêter à la saison 3 et mettre une vraie fin, au lieu de continuer à tirer un petit peu trop. Mais vraiment, la meilleure saison, je pense que c'était la 2.
Bah, je trouve que j'en ai pas regardé une seule, mais c'est celle qui avait fait le plus de...
Donc, plus de bruit, ouais.
De bruit, on en parlait de partout. Et il y avait notamment une scène de sororité dans un bus qui a tourné sur les réseaux sociaux partout, tout le temps.
C'était la 2 ou la 3
du coup ? C'était la saison 2.
Ouais, bah c'était quand Aimée se fait agresser dans le bus et que du coup toutes les filles montent dans le bus avec elle pour lui dire en fait tu peux continuer à monter dans le bus, nous on sera là pour toi et tout.
Ouais, c'était un moment fort ça.
Et voilà, c'est la fin. On ne parlera plus jamais de Sex Education. On vous promet.
On s'en rappellera de cette promesse.
Pas du tout.
Une série dont je n'ai jamais promis d'arrêter de parler.
Ouais, malheureusement. Non, mais je blague. C'est juste qu'il nous en parle depuis 3 mois. Parce que, genre, normalement, on a un espèce de truc. J'explique à Maïlys, vu que, voilà. On a un truc, c'est on parle des séries quand on les a finies. Bah, Emilien, il a décidé de parler de cette série à chaque... Depuis 3 épisodes, alors qu'on lui avait dit de ne pas faire ça, tu vois.
Oui, mais là, c'est une nouveauté.
Ouais, voilà. Ouais.
Merci.
Il s'agit de Only Murders in the Building, saison 3, qui a 10 épisodes de 30 à 35 minutes. C'est sorti de août à octobre 2023 sur Disney+. C'est toujours 3 inconnus qui partagent une passion pour les faits divers et qui se retrouvent soudain mêlés à l'une de ces aventures alors qu'ils enquêtent sur la mort mystérieuse d'un voisin dans leur immeuble de New York. L'écriture est toujours aussi efficace, c'est toujours très drôle. Les révélations finales sont toujours aussi agréables et surprenantes. Sur les 3 saisons, jamais je n'ai été déçu et n'ai vu venir qui était le, là ou les coupables. Donc c'est hyper cool pour un whodunit d'être surpris. Toutefois, cette saison m'a un peu moins emballé. Ouais, j'ai trouvé que ça passait à Broadway, c'était moins...
Broadway, c'est trop bien.
Oui, mais...
La musique.
Le contexte était... Oui, tout le dernier épisode, c'est une comédie musicale.
Incroyable.
Et
la comédie musicale
est trop bien. Et vraiment, elle est trop bien. Elle est un peu... elle a rien de queer, mais visuellement, elle reprend des codes. Déjà, il y a des paillettes partout, donc c'est...
On adore les paillettes.
Comédie musicale, quoi.
Oui. Et aussi, les personnages commencent à devenir un peu leur propre caricature.
Un peu chiant.
Non, pas chiant, leur propre caricature. Donc, j'espère que ça va pas s'empirer. Soyez tranquille, je vais arrêter de vous parler d'Only Murders in the Building jusqu'à la saison 4 qui a été officialisée.
Ouais, mais potentiellement dans une année, quoi.
Dans un an.
Ouais, voilà, on a un peu de temps. D'ici là, j'aurais oublié que ça existe. Alors, on va parler de Soundtrack hashtag 1. Alors, vraiment.
Ah, c'est le vrai nom ?
Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais moi, je l'appelle juste Soundtrack. Donc, c'est l'intégrale. Ça faisait 4 épisodes de 47 minutes. C'était dispo depuis le 23 mars 2022. Vraiment, c'est méga vieux.
C'est méga vieux.
Non, mais je me dis comment j'ai pas pu regarder ça avant. C'est dispo sur Disney+, et ça nous parle de... Enzo doit écrire les paroles d'une chanson sur l'amour à sens unique pour un compositeur célèbre, mais elle est rejetée car... Enfin, ses paroles sont rejetées, pas elle, on ne rejette pas les gens. Ses paroles sont rejetées par manque de sincérité. C'est triste. Non mais attendez, je ne savais pas, mais sur Disney+, il y a également des dramas. Des dramas coréens. Bah, jusqu'à maintenant, il y en avait peut-être un peu, mais je n'avais pas fait attention.
Ah oui,
tu vois.
Voilà.
Là, j'ai réalisé qu'il y en avait mais des tonnes. Donc, j'ai lancé celui-là qui avait l'air trop mimes. Un drama court, il est vraiment mignon. Il parle d'une amitié, histoire d'amour et de créativité artistique. Le gars est photographe, elle écrit des paroles, donc c'est plutôt cool. Vraiment, j'ai trop aimé. Je l'ai regardé en une journée. Donc, vraiment direct.
En même temps, ça va vite.
Oui, ça va vite. C'était une jolie histoire d'amour. Le seul bémol, vraiment, qui m'a un peu saoulée, c'est que vraiment, la série, elle nous dit un truc. La morale de la série, la morale de l'histoire, c'est l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Vraiment ? Vraiment ?
Ah.
Non, je ne suis pas d'accord.
Déception.
c'est une déception. Ce n'est pas parce que cette personne se met à sortir avec son meilleur ami après 19 ans d'amitié que les histoires d'amour n'existent, les histoires d'amitié n'existent pas. Voilà. C'était mon petit pas, je suis pas contente.
Le coup de gueule de Mathilde.
Merci.
Vous pouvez enchaîner.
Après, on va vous parler d'une autre série avec Maïlys. On va vous parler de My Happy Marriage, la saison 1 qui comptait 12 épisodes de 24 minutes. La diffusion a débuté le 5 juillet 2023. Il y avait un épisode par semaine, je ne sais plus quel jour. Et c'est dispo sur Crunchyroll.
Il y a Netflix aussi.
Ah non, t'as raison, c'est sur Netflix, c'est pas du tout sur Crunchyroll.
Fake news.
Mon Dieu. Non, non, mais vraiment, le temps que je réagis, je suis trop habituée à regarder les trucs sur Crunchyroll. Mais il y avait vraiment un épisode par semaine, quand même.
Oui, je crois que c'était le mercredi.
Je crois que c'était le mercredi, ouais. Miyo Semori est une jeune fille qui est née dans une famille aisée, dite de sang pur. Hélas, elle n'a jamais pu bénéficier des privilèges de son statut, sa demi-sœur l'en ayant toujours empêchée. Mais son destin pourrait bien changer lorsqu'elle rencontre le riche héritier d'une famille noble qui semble particulièrement attentionné envers elle.
Ouh là là.
Maïlys, un petit mot ?
C'est mignon.
Oui. Ok. Du coup, c'est l'adaptation du manga du même nom disponible chez Kurogawa, actuellement en 3 tomes en France et 4 au Japon.
À 7,20€ ?
Non, Kurogawa, on a dit. C'est pas le même éditeur que Pika. C'est pas les mêmes prix, du coup.
Ah, pardon.
Non, mais voilà. C'est donc l'adaptation. Moi, j'ai trouvé que l'adaptation était cool. Visuellement, c'est trop beau. Et en plus de ça, cette adaptation lance les beaux jours des nouvelles, des autres adaptations Shoujo et Josei. C'est genre, tu vois, le début. C'est
le ce qui va amener les autres.
C'est ça. Maintenant, il y a plein d'annonces tout le temps. Genre, toutes les semaines, toutes les deux semaines, il y a des
prends
annonces.
Prends ça, Dragon Ball.
C'est ça. Prends ça.
Le cerveau de Mathilde explose à chaque fois.
Oui, à chaque fois. Là, il y a Criminelle Fiançailles, ils l'ont annoncé ce mois-ci.
Ah, c'était fou.
Incroyable. Donc moi je trouve que l'adaptation est trop cool, visuellement c'est trop beau, et l'adaptation est bien réalisée, genre on suit bien le manga, même si ça suit pas linéairement, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit.
Ah oui, il y a des passages qui se passent
avant passages,
ou après ouais,
voilà,
au manga.
Ouais. Ils ont essayé de faire ça à leur sauce, mais ça marche. Cette histoire peut être qualifiée comme une adaptation moderne de Cendrillon dans un Japon médiéval où famille noble dispose de pouvoirs surnaturels. Voilà, c'est mon résumé.
Ok.
C'est un conte moderne, plutôt classique, mais moi je trouve que ça fonctionne super bien. On s'attache vraiment au personnage, même si j'avoue, Mio, des fois, j'ai envie de la claquer.
Elle est un peu naïve.
C'est pas vrai. Je sais pas si c'est naïve le mot. Je dirais soumise.
Oui, bah après, elle a toujours été soumise depuis qu'elle est enfant, donc.
Du coup, elle dit jamais ce qu'elle pense, elle dit jamais ce qu'elle veut. Elle est vraiment. T'as l'impression que c'est un légume.
Oh. C'est vrai. Il y a des moments où Mio, c'est un peu ça.
Donc des fois, c'est un peu compliqué. On peut pas dire de Mio dans les premiers épisodes que c'est un personnage féminin fort. Peut-être oui, tu vois. Genre, mais dans un premier temps, non. C'est pas le truc qui vient en premier. Donc oui, moi je me suis quand même attachée à eux. Moi j'aime beaucoup son futur époux. Il est cool. Je trouve stylé.
Stylé hein.
Et lui pour le coup, il est badass de ouf. Adaptation réussie. D'après moi et toi ?
Ouais, je suis d'accord.
Ouais, moi, je trouve ça cool aussi. Et saison 2 déjà annoncée. Donc, vous pourrez découvrir ça prochainement.
Sur Netflix.
Je pense que ça sera sur Netflix ouais. Bien évidemment. Netflix. Toudoum. Oh là là, mais il n'y a que moi qui me parle.
Je sais pas toudoum.
T'as pas le toudoum ?
Non.
Mais c'est, je viens de le faire. Enregistre-le. Toudoum.
Je mettrai que celui-là.
Je continue mon monologue avec Mother for Salem. J'ai regardé la saison 3 qui est également la dernière de cette série qui compte 10 épisodes de 42 minutes. C'est sorti, pareil, je ne sais pas.
C'est capable de te sortir des dates de série...
Qui sort dans un an ?
Non, c'est 23 mars 2022. C'est hyper précis, mais un truc récent, tu l'as pas.
Non, je sais pas pourquoi.
C'est fou.
Ouais, je peux te sortir la date de la sortie du film Hercule en 97 si tu veux. Mais vraiment la saison 3 de Mother for Salem qui est disponible sur Prime Video. Alors, de temps en temps. Enfin, vous pouvez regarder la saison 1, la saison 2, mais potentiellement la saison 3, la dernière fois que j'ai voulu la regarder, il y avait marqué qu'elle était indisponible.
Ça, c'est Prime Video.
Alors,
ça.
Elle était partie quelque part où je pouvais pas la trouver apparemment.
Oui. J'avais pas envie ce jour-là.
Mais j'ai fini par réussir. Pour rappel, dans une Amérique alternative où les sorcières ont passé un accord avec le gouvernement 300 ans plus tôt, afin de ne plus être persécutées, trois jeunes femmes entament leur entraînement à Fort Salem pour devenir des combattantes hors pair avec la magie pour meilleure arme. C'est toujours aussi cool ce résumé.
Il est stylé.
Ouais. Alors, je vous avais déjà parlé de cette série, je ne sais plus quand, dans un récapito pré-saison, pour laquelle j'avais eu un énorme giga coup de cœur. J'avais regardé la saison 1 et 2 en même temps, il me semble.
En même temps, vraiment sur deux écrans, côte à côte.
Non, l'une après l'autre, voyons. Soyons un peu sérieux. Je croyais qu'on était à un podcast sérieux.
Ton humour est irrésistible.
Tout de suite. Elle s'achève donc avec cette troisième saison, que j'ai malheureusement trouvée un peu en dessous de première. Ouais, j'ai été déçue. Ben on est tous déçus de quelque chose, je trouve. J'ai eu l'impression que cette saison avait été faite un peu à la va-vite, malheureusement. Il y avait comme si on avait dit hey, faut trouver une fin, allez-y maintenant, blablabla. Et hop, c'était fini, tu vois. Au moment où on en est, les sorcières doivent combattre une organisation, la Camarilla, qui s'est infiltrée jusqu'au sommet de l'État avec à sa tête le vice-président des États-Unis. Attention, c'est vraiment chaud aux patates. Dans la saison précédente, il avait été prêt à tout, même à sacrifier sa propre fille, qui était une sorcière. Il l'a clairement buté.
Ah voilà. Bah super.
Enfin, il doit injecter un truc.
L'esprit de famille est là.
Ouais, bah c'est ça. Durant toute cette saison, on est baladé d'un lieu à un autre, d'une intrigue à une autre, pour finalement une résolution qui paraît un peu trop facile. La question est la suivante. Est-ce que j'ai le droit de donner cette résolution ou dois-je la garder, comme c'est un énorme spoil?
Oui, oui, on avait dit qu'on spoilait.
Alors, si vous voulez pas entendre la résolution de la saison 3 de Mother for Salem, je vous conseille de mute à partir de tout de suite. Il s'avère que pour tuer la Camarilla, la solution, c'est de trouver un champ. Donc, ils trouvent ce champ.
Champ de culture.
Un champ.
Un champ.
Ah non, un champ, une chanson.
Ah, moi aussi, j'ai compris un champ.
Bah oui, moi, j'étais un champ.
Elles chantent, c'est des sorcières avec leur organe vocal, la magie, tout ça, tout ça. Elles chantent et elles chantent le premier chant qui a donné la parole aux hommes et aux femmes. Mmh. Et elles rechantent ce chant et il s'avère que, surprise, tout le monde devient sorcier et sorcière.
Ah, donc le monde entier devient des sorciers. Des
donc, il n'y a plus de... Potentiellement, la Camarilla ne va pas tuer des sorcières pour... en mode, on extermine les gens qui ne sont pas comme nous, alors que maintenant, on est tous pareils.
Oui, c'est... Oui.
Moi, je trouve que c'est une fin utopiste.
Ça fait un peu X-Men.
Ça fait un peu genre, on ne savait pas quoi raconter, on y va.
C'est un peu une fin facile.
C'est facile de ouf.
C'est le scénario du premier film X-Men.
Ouais, je suis un peu déçue. Hein. Déception. Le seul truc sympa, c'est que jusqu'à maintenant, quand on était à Fort Salem ou quand on était sur les lieux de sorcières, la colorimétrie changeait. Et du coup, à la fin de la série, bah, toute la colorimétrie change parce que maintenant, tout le monde est sorcier et sorcière. Je trouve ça marrant.
Ah, c'est le petit détail.
C'est le seul petit détail qui m'a plu. Vraiment, je trouve... Oh, c'est mignon. Donc voilà, je trouve ça quand même dommage. Car cette série est sûrement une de mes préférées actuellement, avec sa thématique autour des sorcières, son impact féministe et son casting très féminin, presque exclusivement féminin même. J'aurai toujours plaisir à la revisionner et donc je vous la conseille bien évidemment.
Tu regarderais tout ou tu regarderais que les deux premières saisons?
Peut-être que je regarderais que les deux premières, parce que vraiment le final je le trouve inintéressant. Je trouve ça me... Alors que les actrices et tout le reste, il y a vraiment des intrigues trop cool. Et au final, tu n'es pas obligé de regarder la fin, tu sais comment ça finit. Voilà, basta.
Ok.
Et je continue, je finis avec The Haunting of Bly Manor, l'intégrale. 9 épisodes de 57 minutes, sortis le 9 octobre 2020.
Ça me rend ouf que t'aies les vieilles dates précises.
De rien.
Et pas les récentes.
C'est dispo sur Netflix. En fait, The Haunting of Bly Manor, c'est aussi... En fait, ils ont fait une série, enfin en gros, il y a la série The Haunting of Hill House. Et en gros, ça fait partie des séries qu'ils appellent The Haunting. Et en gros, Bly Manor pourrait être la saison 2 de l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Dans l'Angleterre des années 80, après la mort tragique d'une jeune fille au père, Henry Wingrave engage une gouvernante américaine inexpérimentée pour s'occuper de sa nièce et son neveu. Ces deux orphelins résident à Bly Manor avec le cuisinier du domaine Owen, la jardinière Jamie et l'intendante Mrs. Cross, désolée. Mais le manoir regorge de faux-semblants et des siècles de sombres secrets n'attendent que d'être exhumés au fil de terrifiants romance gothique sur l'amour et le deuil, car à Bly Manor, les morts ne sont pas tous des disparus.
Ouh là là.
Alors bon, J'adore, j'aime beaucoup ce résumé, car cette série est...
C'est là que je devais mettre
oh,
ça.
Oh bah tu peux, vraiment on peut la garder en fond. J'aime beaucoup ce résumé, car cette série est parfaite en ce mois d'octobre pour ce côté terrifiant et horrifique, parle avant tout d'amour. On retrouve la même équipe qui a travaillé sur The Haunting of Hill House, et c'est toujours aussi parfaitement splendid. C'est d'ailleurs le titre de la chanson que nous écoutons, Perfectly Splendid. Les décors et l'ambiance sont à couper le souffle. J'ai également adoré les costumes qui nous plongent totalement dans les années 80. Les épisodes s'enchaînent en parlant des différentes histoires, des protagonistes. On se pose des questions tout au long et vient l'épisode numéro 8 qui nous apporte les pièces du puzzle qui nous manquaient. C'est vraiment Perfectly Splendid. Vous allez dire que j'exagère et que je dis énormément ces mots « perfectly splendid », mais vous comprendrez très vite cette référence en regardant cette incroyable série. J'ai trouvé que cette mini-série faisait beaucoup moins peur que sa grande sœur « The Haunting of Hill House », mais je ne sais pas pourquoi, en visionnant celle-ci, j'ai ressenti énormément d'émotions. Car la peur et l'horreur des situations est toujours causée par un malheur et par amour. Dani se retrouve à Bly Manor embauchée comme fille au pair car elle fuit le deuil de son fiancé qui était avant tout son meilleur ami. Les enfants Wingrave ont perdu leurs parents et tout au long de l'histoire on découvre que tout tourne autour de l'amour, du deuil et de la trahison. Des histoires de familles qui ont au fil des siècles brisé d'autres familles. Je dois être passionnément passionnée parce que je n'entends personne qui essaie de poser
des
questions.
On n'a pas envie de t'interrompre.
Oh, ouais, c'est incroyable. Si beau aussi.
J'ai adoré cette série et je suis vraiment peureuse, mais étrangement, à chaque nouvelle série de Mike Flanagan, dont on parlera encore pour le sujet du mois, je ne peux m'empêcher de les regarder. La peur est présente, mais je crois que j'aime ce rendez-vous. D'un côté, j'aime peut-être avoir peur. Et vous écoutez le thème de Perfectly Splendid de The Newton Brothers. J'espère que vous l'appréciez parce que moi, je l'adore vraiment. Cette playlist-là, ce petit... Ah, il est incroyable, non? Vous aimez pas cette
musique? Non, la musique est chouette.
Oh, ça allait bien incroyable. Avec ce que tu racontais en plus.
Voilà, vous avez des questions? Vous trouvez vraiment regarder? Vous avez trop envie de regarder?
Mais tout le monde aime avoir peur.
Je crois pas.
Non, pas moi.
En fait, il y a différentes peurs. Moi, là, ça pourrait me plaire. La chute de la maison Usher, j'ai bien aimé. Ce que j'aime pas, c'est les...
Je pense que moi, c'est vraiment lié aux émotions. Et j'adore cette série parce que c'est de la peur. Mais en gros, c'est sur... Enfin, il arrive des trucs horribles. Mais c'est tellement d'un côté poétique, et comme c'est, tu vois, sur la famille, sur les émotions et tout, ça a vraiment un sens. C'est pas juste ça te fait peur pour te faire peur. Genre, il y a une dame dans le lac, par exemple, elle sort du lac, elle fait le tour de la maison, et dès qu'elle croise quelqu'un, elle l'attrape à la gorge et elle l'emmène avec elle dans le lac, tu vois. C'est horrible, ça fait trop peur. Mais en fait, pourquoi elle fait ça, cette bonne femme, tu vois? Il y a toute une histoire derrière, et l'explication, émotionnellement, c'est super waouh. Et du coup, ce genre de truc, ça me plaît. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore le manga The Summer of Hikaru Dai, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste une histoire qui fait peur, c'est une histoire de sentiments humains derrière.
Mais ça raconte autre chose que faire peur.
Ouais. Et c'est ce que j'adore trop dans les séries qu'ils font sur Netflix. Les deux, vraiment... je pense que celle-là, je l'ai encore préférée à l'autre. Je pense que The Haunting of Hill House, c'était vraiment plus faire peur.
Il y avait un côté de mémoire déjà angoissant dans l'image.
Ouais.
Au-delà de tous les artifices de peur, les personnages étaient totalement dépressifs, déprimés. Tout était pesant, lourd. Là, il y a visuellement, ça a l'air plus...
Mais ça fait pas peur tout le temps, léger. En fait. Ouais, ça fait pas peur tout le temps. C'est genre, je pense que dans un épisode, t'as peut-être deux fois où il y a des trucs qui font peur. Ou alors, il y a des trucs, genre, il y a le mari de Dani, par exemple, il est décédé, et en fait, elle le voit, tu vois. Et en fait, il a des lunettes très rondes, et en fait, il est mort parce qu'il a essayé de monter dans la voiture, et il y a un camion qui l'a percuté. Donc, avant de mourir, en fait, il a tourné la tête, et les feux de la voiture, ou du truc qu'il a écrasé, se sont mis dans ses lunettes. Et du coup, elle voit juste sa silhouette, et les lunettes, il y a comme de la lumière qui sort de ses lunettes. C'est terrifiant! Mais c'est tellement bien pensé, tu vois.
C'est vrai.
Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui...
C'est vrai.
Visuellement, elle est incroyable, cette série.
Peut-être que je me ferais tenter, parce que c'était vraiment bien comme
résumé. Ah ouais, vraiment, si t'as jamais vu les The Haunting, vraiment la première fait ultra.
Non, Hill House, pas un super... Enfin, c'était bien, mais pas un souvenir...
incroyable et je la conseillerais pas, je pense.
Moi, je
moi j'avais celui-ci. Adoré esthétiquement à quoi ça ressemblait.
Ouais, bon.
Mais là, vraiment, dans Blaine Manor, t'as tout l'esthétique et en plus, t'as tous ces trucs trop cool.
On en a terminé avec les séries. On peut maintenant passer au film d'octobre. Je vous ai déjà parlé de Matrix.
Non, tu crois ? C'est quoi ?
C'est une trilogie qui s'appelle Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, sortie en 99 et en 2003. Ça dure environ 2h10, plus ou moins, et c'est en ce moment dispo sur Netflix. Et ah, la trilogie est réalisée par Lana et Lily Wachowski. Le résumé, c'est un informaticien à la vie tranquille le jour se... ah oui, c'est vrai, se transforme en pirate de cyberespace.
Cyberespace.
Et libérateur élu la nuit.
Vraiment, on dirait qu'il met une carte et que c'est un super-héros.
Ah, c'est vrai que j'avais oublié que ce résumé était complètement faux. Ben, c'est toujours aussi incroyable, Matrix, ça bouge pas. Hein. J'ai encore découvert des choses en la regardant.
Oh là là.
Et c'est vraiment pas loin de devenir ma saga préférée all time.
Oh là là.
À ce point-là ?
Ouais, vraiment.
La pilule bleue ou...
Ben, la rouge. Je vous invite à lire mes articles sur la trilogie, puis sur Matrix 4 sur le blog. Comme ça, je vous embête pas trop à répéter encore et encore les mêmes choses ici.
Ok, mais moi j'avais une question. Est-ce que c'est pas genre, tu vois, quand t'as un truc que t'aimes autant, tu vois, est-ce que c'est pas genre déprimant de le regarder sur un petit ordinateur le midi au lieu de se le regarder genre sur un grand ordinateur de, enfin, devant la télé et tout ?
Eh ben non, parce
que... Est-ce que c'est pas gâché ?
Ben non, parce que je découvre plus. Et justement, je connais assez pour pouvoir en faire une sorte... Enfin, l'apprécier dans des conditions pas ouf.
Genre, tu vas dire les dialogues bientôt ?
Non, quand même pas.
Ok, ça va.
Mais...
Tu regardes en français ?
Oui. Hmm. En mangeant et en faisant d'autres trucs, oui. D'accord. Obligé. Mais non, c'est... Une fois que j'ai vu un truc une première fois dans des bonnes conditions, je peux le regarder un peu à l'arrache.
Ok.
Voilà.
Je vois.
Mais évidemment, ça se savoure à la télé, voire au cinéma,
quand c'est possible.
Quand on peut avoir cette chance. T'as déjà vu Matrix, Maëlys ?
Oui, mais ça fait très longtemps. Je crois que j'ai que regardé que le premier.
T'as vu le 4 ?
Non.
Tu auras, tu auras.
Non. Non à toute cette phrase.
No, God, please, no ! No ! No !
Voilà.
Ça, c'est le son lui intérieur, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Je vais parler d'un autre film qui s'appelle Spree, qui est sorti en 2020, qui dure 1h33, et on inaugure une nouvelle plateforme.
Oh, no.
Encore
une.
Bah, c'est hyper bien. C'est Shadows, on n'en a jamais parlé, mais on connaît parce qu'il y a des fois des pubs sur YouTube. Oh, j'ai un lien affilié avec... Squeezie 10, vous avez 10% sur l'abonnement. Enfin bref, ce genre de truc.
Jamais entendu parler.
C'est une plateforme 100% horreur.
Ah, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas très... On n'est pas les publics lycées, je crois.
Il me semble qu'elle est française, mais j'aurais dû vérifier, mais je ne suis pas sûr. En l'occurrence, Prise est un film réalisé par Eugène Kotliarenko. Le résumé dit Kurt Kunkel, son nom est très drôle.
Nom.
Un chauffeur de covoiturage assoiffé de followers a mis au point un plan mortel pour devenir viral. Alors que son live stream inquiétant est de plus en plus suivi, une comédienne fait tout pour l'arrêter. Alors, il n'est pas vraiment un chauffeur de covoiturage, c'est totalement un chauffeur Uber. Mais sur une appli qui s'appelle Spree. C'est un film en fan footage, à base de vidéos ou de streams sur Internet.
Ah, je déteste ça.
Bah,
ça me fait trop flipper.
Pourquoi ?
Je sais pas, hein, mais tu sais, j'avais vu 8, numéro 8, vidéo 8, comment c'était le film avec les enfants extraterrestres, ou enfin dans les enfants super-héros, où c'est filmé au truc Super 8.
Non, Super 8, c'est pas un fan footage, c'est Chronicle.
Ah, Chronicle. Bah, tu vois, j'ai vu ce film, oui, et depuis, je suis complètement trauma.
Je comprends. Mais je trouve que là, justement, que ça soit pas un fan footage dont on a récupéré une caméra, une cassette, là où c'est plus... On a fait un montage avec...
J'ai vu Rec aussi.
Bah, Rec, c'est pareil, c'est la même chose. Et là, je trouve qu'il y a un côté un peu moins... le côté pur fan footage, on a retrouvé une archive, ce y a moins cet effet, donc du coup c'est un peu moins angoissant. Parce que là, c'est vraiment, on a c'est comme si on avait téléchargé les vidéos, les replays d'un stream, des vidéos YouTube, etc., et qu'on avait fait un montage pour en faire le film. Donc, c'est un peu un found footage 2.0. Et le format et la mise en scène sont du coup très riches parce qu'un found footage, ça restait toujours un format 16/9, etc. Là, du coup, il y a beaucoup de formats verticaux. Il y a des split screens où on superpose côte à côte deux formats verticaux. Enfin, il y a un montage qui est très intéressant. Et c'est réussi, je trouve, de ce point de vue-là. Et la réalisation aussi est plutôt bonne parce qu'il n'y a pas de gros foirage sur le genre fan footage. Par exemple, si vous voulez voir un film fan footage très mauvais là-dessus, vous pouvez regarder Projet Almanach. C'est le seul intérêt de ce film. C'est que...
J'ai hâte de regarder un mauvais film.
Mais, par exemple, on filme au caméscope, les personnes à 50 mètres, on les entend parfaitement. Ça n'a aucun sens.
Comme par hasard.
Ah, mais il y a un truc comme ça dans Rubber.
Oui, mais Rubber, c'est du pieux. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des trucs... Enfin, que ça brise
tu
des règles.
Tu veux dire que les pneus, ils tuent pas des gens dans la vraie vie?
Rarement.
Quoi?
À part les pneus accrochés à des voitures,
oui.
Accrochés aux mains de gens qui ne savent pas
non,
conduire.
Non, moi, je te parle juste d'un pneu tout seul.
Oui, bon, bah là,
ah, ouais, c'est sûr.
Par contre, le film souffre d'un gros problème de rythme. Il y a des gros ventres mous qui servent juste à rallonger la durée du film, alors que pour ce genre de long métrage, 1h, 1h15, ça aurait été parfait. Là,
mais
ça dure 1h33.
Oh là là.
Non, vraiment, il y a des fois, on s'en fout de cette histoire. Par exemple, Kurt et son père qui vont dans un club de striptease.
Mais c'est pas censé faire peur.
Si, bah, c'est sur Shadows, donc si.
Parce et que ça... du coup, moi, j'attends, c'est quoi l'histoire qui fait peur?
Et bah, justement, j'y viens. D'abord, le film essaie de poser une critique sur la quête de la popularité sur Internet et jusqu'où on est prête à aller pour devenir populaire. Ça cherche aussi à dénoncer les dérives morales des influenceurs, influenceuses qui vont parfois trop loin pour le nombre de likes. Et c'est un autre bon point, c'est que le film maîtrise globalement les codes d'Internet. Le seul truc pas crédible que j'ai noté, c'est qu'il a des GoPro pour se filmer en live et les GoPro, elles n'ont pas de câble. Donc, compliqué de diffuser en...
Le Bluetooth?
Oui.
Il n'y a pas de go... Mais...
Ça n'existe pas.
Bon, arrêtez.
Pour le film,
après,
ça existe.
Moi, j'ai un truc qui prend une GoPro pour se filmer en live.
Non, mais c'est le seul truc en lien avec Internet que j'ai trouvé qui n'était pas 100% crédible. Voilà, je reviens au film d'horreur, où malheureusement, la finalité s'avère être terriblement caricaturale. Ça reste à la surface de ses propos et ça préfère s'enfoncer dans une tentative de slasher un peu gratuit. Parce qu'en plus, c'est même pas un vrai slasher.
Oh, bon, dis donc.
Non, mais c'est... Et malheureusement, c'est pareil pour le jeu d'acteur de Joe Keery, qu'on connaît bien parce que c'est Steve dans Stranger Things.
Ah, okay. Mais je connais. Oh, mais ça va, wesh.
Et en fait, au départ, il joue un Californien un peu ringard, qui veut juste être connu. Enfin, il a un accoutrement, un jeu qui est...
Est-ce qu'il porte une casquette dans ce film? Ça me dit quelque chose, en fait, ce film.
Il a peut-être une casquette.
Ouais, je crois. Ouais.
Et en fait, au départ, il est hyper bien. Et puis d'un coup, il commence à devenir hyper caricatural où son jeu, c'est juste... Il fixe la caméra et il fait un sourire en coin. Donc évidemment, il est flippant.
Mais en même temps, c'est pas pour être...
Oui, mais c'est...
Son visage n'est pas le visage le plus...
Rassurant.
Ouais.
Oui, mais là, ça fait juste en indication, c'est vas-y, prends un air de taré sadique et c'est
Mais ça
tout.
Marche.
Oui, ça marche, mais...
Mais peut-être pas tout le temps, quoi.
C'est très superficiel. Et surtout, c'est la seule facette après. Il y a un autre problème aussi, c'est que j'ai du mal à comprendre ses motivations. À quel moment il passe de « je veux devenir populaire » à « je vais tuer des gens en live pour devenir populaire ». Il n'y a pas de... En fait, pendant un quart d'heure,
ça
il
part
galère.
Ça part en snurf movie
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Un snurf movie?
Je ne sais pas ce que ça
c'est
veut dire.
C'est une vidéo de meurtre en direct.
Ok, bah oui, à la fin, c'est ça.
Oui, le principe des snurf movies, c'est des films qui tournaient dans les je ne sais pas quelle année. En gros, c'était des films en direct de meurtre.
Mais pour de vrai?
Oui. Ah. Ça a vraiment existé. C'est pas une...
D'accord.
Je n'en ai pas un truc.
En gros, c'est un film qui ne tient pas vraiment ses promesses parce que sur l'affiche, il y avait écrit... American Psycho pour la génération digitale. Et vraiment, American Psycho, c'est quand même un gros cran au-dessus. Là, c'est, comme je disais, très en surface. Et ça ne va pas beaucoup plus loin. Et même si j'ai passé un bon moment, je suis quand même un peu déçu parce que je m'attendais à mieux en voyant la bande-annonce. On change d'ambiance ?
Oh, mais oui ! On va parler de Hercule.
Oui, ah bah là, on change totalement d'ambiance là.
Petit Disney, c'est sorti le 3 novembre 1997.
Vous voulez un fun fact ou une anecdote bof?
Vas-y.
Je crois que c'est le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma.
Ah, oh. Moi c'était Le Roi Lion.
Et il a bugué.
Oh non, tristesse.
Moi c'était Le Roi Lion. Il fait 1h33, il est dispo sur Disney+, bien évidemment. Pour rappel, alors qu'il a été élevé parmi les mortels, Hercule, fils de Zeus, ne s'est jamais senti comme les autres. Il décide de partir à la recherche de ses origines, mais pour revenir sur l'Olympe, il doit devenir un héros hors du commun et contrecarrer les plans du dieu des enfers, Hadès, qui cherche à devenir le maître de tous les dieux.
C'est un bon résumé.
Ouais,
ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore revisionner des Disney que j'adorais quand j'étais enfant, parce que je le vois pas du tout de la même façon.
Non.
Ah bah oui.
Il y a ce que tu pensais voir quand t'étais gamin, le souvenir que t'en as et ce que tu regardes actuellement, t'as l'impression que c'est... Tu regardes pas la
ça
même chose.
Ça fait trois mélanges bien différents.
C'est trop bizarre.
Bah surtout les Disney, on va dire, avant La Reine des Neiges.
Oui, l'ancienne génération.
Où c'était... c'était des vieux regards pas ouf.
Bah déjà, ce que j'avais l'impression, c'est que le film, quand j'étais gamine, il durait 8 ans.
Il dure pas du tout.
Alors là, il fait 1h33 et c'est passé comme ça. Et j'ai l'impression que tout va plus vite. Genre les dialogues, le truc. Moi, je pensais que les péripéties allaient plus doucement, tu vois, que ça durait longtemps, il se passait plein de trucs. Mais en fait, il se passe rien dans les films.
Bah déjà, il y a pas les 12 travaux et la moitié, c'est en...
C'est en
clip show.
Oui, il le met en musique. On voit plusieurs combats et puis voilà.
On voit l'hydre.
L'hydre, c'est bon.
Ah non, l'hydre, c'est une scène.
Oui, c'est une vraie scène. C'est l'une des premières scènes qu'on voit aussi, je crois.
C'est ça.
Dans le film.
Mais vraiment, c'est trop bizarre ce truc de t'as l'impression que ça passe super vite. Après, visuellement, j'avais peur qu'il ait méga vieilli. Et en fait,
pas
non.
Pas du tout.
Ça
je trouve qu'il a mieux vieilli que certains films qui sont sortis il y a 3 ans.
Mais je me suis demandé s'il avait pas été remasterisé.
J'avais
c'est
pas
possible
parler.
Que t'as des versions HD remasterisées sur Disney+.
Parce que là, ouais. J'avais vraiment l'impression qu'il était propre de ouf. Et je me suis dit, putain, il était aussi propre avant. Parce que je me rappelais pas du tout qu'il était aussi propre que ça.
Évidemment, je pense qu'il y a un traitement pour passer d'une pellicule à...
Oui, possible, ouais.
À du numérique.
Mais en tout cas, moi, j'ai regardé le film. Bah, je l'ai trouvé toujours trop cool. Bon, évidemment, le book, là... déjà, c'est très marrant. Je me suis rendu compte que je sais plus comment il s'appelle, mais le bouc qui entraîne Hercule,
ouais.
Bah, c'est pas un bouc en vrai. Dans le vrai conte, dans la vraie histoire, c'est un centaure.
Ah ouais?
Et
t'es sûr que c'est un centaure?
Je suis persuadée que c'est un centaure. C'est le mec qui entraîne les héros.
Ou c'est le centaure, c'est une créature mythologique bien précise.
Oui.
Alors, c'est pas comme dans le monde de Narnia, là, où il y a...
Oui, comment ça s'appelle?
Je cherche.
Qui a la flûte de Pan, là, pour faire...
Mais non, c'est pas
non,
Pan.
C'est pas ça.
C'est
le faune, c'est pas
voilà.
Un faune.
Mais non, c'est un centaure, c'est Chiron. Chiron, c'est un centaure.
Bah, peut-être qu'ils ont voulu créer une espèce de mascotte pour le film Disney, hein. Mettre quelque chose de plus mignon pour que ça passe plus avec les enfants, qui sait.
Parce que c'est ça, grâce à son savoir, Chiron fut le maître d'Adacléopios, de Jason et d'Achille, à qui on enseigne les arts de la musique et de la guerre. Et en gros, ils en parlent dans Hercule, ils n'arrêtent pas de le dire. Enfin, ils lui font une blague même, ils lui disent « Achille, t'as entraîné Achille, c'était le plus grand des héros, mais là, son talon d'Achille s'est cassé, blablabla, et l'autre, il est trop dégoûté. » Et bien, normalement, c'est un centaure, et il n'a pas du tout entraîné Hercule, de toute façon.
Voilà. Okay.
Et j'ai su ça parce que j'ai lu le livre de Madeline Miller, qui s'appelle... voilà. Je sais plus le titre. Ah non. Voilà. Je fun fact vraiment qui s'appelle Le Chant d'Achille tout simplement. N'allons pas plus loin. Et donc c'est une réécriture de la mythologie grecque et ça parle d'Achille. Et son mentor c'était Chiron et c'était voilà. Donc voilà. Du coup j'étais genre c'est pas comme ça que ça s'est passé. La meuf elle commence à lire trop de livres sur la mythologie, elle c'est pas comme ça, hein, racontez pas n'importe quoi. Donc oui, j'aime pas le book en vrai parce que je le trouve complètement sexiste. Il essaye d'aller embrasser toutes les gonzes.
Ah, c'est Patrick Timsit. Hein.
Ouais, ouais. Enfin, voilà quoi. Et donc ça j'ai pas aimé. Après le reste, ça va, hein, vraiment, il a pas si mal vieilli. La musique est toujours incroyable, gospel.
Ouais, j'adore.
Trop trop cool.
Ah oui, c'est trop bien. J'adore les musiques moi.
Et donc,
oui, elles ont très bonne réputation.
Je pense que je le re-regarderai dans quelques années.
Attends, dans quelques années quand même.
Bah, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Quand je m'en rappelle trop, c'est pas bien. Je préfère attendre d'oublier.
Mais tu profites mieux comme ça après.
C'est vrai.
Et ben, peut-être que vous allez pas attendre quelques années parce que il se peut, c'est très probable qu'il y ait une adaptation live action de Hercule avec.
Qui est l'acteur? Alors,
L'acteur, on ne sait pas encore.
Attends, voilà. Mais par contre,
Ariana Grande risque est pressentie pour jouer Megara. Et je trouve très bon cast.
Ça peut.
Déjà, elle sait chanter.
Ouais.
Et en plus, elle représente bien le personnage.
Est-ce que ça peut être Pedro Pascal?
Non, c'est hyper chelou parce que Pedro Pascal, il est vieux.
Mais en même temps, je pense pas que.
Ariana Grande, elle a à peu près moins de 25 ans, donc ce serait encore un truc horrible.
Non, désolé, oui, j'avais pas vu qu'elle était si jeune. Non, mais c'est juste qu'en vrai, c'est pas vraiment vrai qu'ils étaient si jeunes.
Par contre, Pedro Pascal en Zeus, là, d'accord.
Ah oui, en Zeus. Ah, ça pourrait être marrant.
Bah oui.
Par contre, dans le film, Zeus, il est pas aussi gentil, blablabla. Hera, elle a l'air trop sympa aussi.
Ils ont l'air tous sympas, les dieux, alors que
c'est des gros connards.
C'est pas ça, dans la vraie vie.
Non. Moi, quand je les ai vus,
il a violé à peu près la moitié de l'Olympe.
Bah oui.
Et
là, ils ont l'air toujours dit « Oh, mon fils, je t'aime !» Non, il aime aucun de ses enfants.
Il a transformé la moitié des meufs qui l'ont jeté en animaux. Ça va pas du tout.
Non.
Après, il y a eu la petite patte de Disney.
Oui, la petite patte de Disney.
Déjà, on a oublié que tout le monde était consanguin, que tout le monde a les mêmes parents.
C'est ça.
Voilà. Je vais revenir à Halloween maintenant.
Oh, Halloween.
Avec le mauvais esprit d'Halloween.
C'est le truc que tu regardais hier soir?
Cet après-midi.
Ah,
non, c'est récent.
C'était esprit hier soir.
Ah, cet esprit hier soir, parce que ça crie dans tous les sens.
Ça crie pas trop le mauvais esprit d'Halloween, parce que c'est sorti en 2022.
Ah, c'est
juste. Et ça dure 1h29. C'est dispo sur Netflix.
Y a même pas la date précise, t'as vu ça?
Ouais, il manque le jour. Ouais,
c'est ouf, enfin, c'est réalisé par Jeff Waldo. Que feriez-vous si les décorations d'Halloween de votre ville se mettaient à prendre vie?
Je pense que je me barre.
Ouais, moi aussi, je me cache dans ma cave.
Ce n'est pas ce que fait Howard et sa fille Sydney, qui décident de prendre le challenge à bras le corps.
Genre, comment ça?
Ils sont bien courageux.
Comment le challenge? Quel challenge?
Genre, non, le résumé
ils
encore
vont partir
nul.
Directement voir les.
Il n'y a pas de challenge.
Moi, je ne vois pas c'est quoi le challenge.
C'était péter les décorations et essayer de mettre fin à la malédiction.
Ah,
de
vivre. Ouais. Oui. Du coup, ils vont direct dans le danger, quoi.
Ouais.
Ils vont foncer dans les zombies, quoi.
Oui.
Est-ce que ça arrive vraiment?
Il
n'y
a pas que des zombies.
Dans les zombies.
Parce qu'en fait, c'est plein de décos. Il y a des extraterrestres, il y a des squelettes, il y a des zombies aussi.
Du coup, est-ce que c'est des décos en plastique?
Oui, genre, mais ça prend vie.
Okay. Est-ce que ça ressemble à du plastique? Comment ils ont animé ça?
Ouais, en 3D.
Ah, ok.
Ah, ils n'ont pas mis des personnes.
Il y a des fausses sorcières, enfin des sorcières, en balai et tout. Enfin, tout le folklore d'Halloween.
Est-ce que ça fait peur? Bah
non.
Oui, parce que c'est
ça fait pas peur. Ah, non, fait parce peur. Que c'est un film d'Halloween pour enfants. Avec tout le cahier des charges qui va avec, donc il y a des enfants attachants, une relation père-fille compliquée.
Ça, je pourrais regarder alors.
Oui, et des personnages fonction qui ne sont là que pour faire avancer les péripéties, mais qui n'ont pas de. Non, mais non. Non, par exemple, les amis de Sydney ne sont là que pour l'aider à accomplir sa quête. Ses amis n'ont aucun background, n'ont aucune personnalité.
On ne se rappelle pas de leur nom et prénom et âge.
Non.
Et tout.
À part qu'il y en a une qui est un peu gothique.
Ok.
Voilà. Donc ça n'invente rien, mais ça n'a pas cette prétention. Il y a quelques moments de bravoure un peu chouettes. Un truc amusant, c'est exactement. Bah, évidemment, ce n'est pas les mêmes mélodies, mais c'est exactement la même musique que le premier film Harry Potter. C'est évident que sur le banc de montage.
C'est très bizarre.
Mais en fait, si vous ne savez pas, maintenant, dans le cinéma hollywoodien, ce qu'on fait, c'est que quand on fait le montage du film, on met des musiques d'autres films. Et une fois que le montage est fini, on dit au compositeur, compositrice,
fais un truc
qui ressemble beaucoup. C'est pour ça que maintenant, tout se ressemble et qu'il y a assez peu de personnalité dans les musiques, à quelques exceptions près. Et là, c'est quasiment sûr qu'ils ont mis les musiques d'Harry Potter 1 en faisant le montage. C'est la même chose. Donc, si vous aimez La Nuit au Musée ou Casper, Hocus Pocus ou Hubby Halloween, ce film vous plaira aussi.
Est-ce que ça ressemble au film nul avec les sorcières qui transforment des gens en souris?
Oui, s'il vous plaît.
Oui, mais non. Non, parce que non, dans Sacré Sorcière, il n'y avait pas de délire d'Halloween.
Je l'ai regardé récemment, j'étais très
C'était
très
pas bien.
Hein. Heureusement que je faisais du crochet.
Ça a attrapé ma soirée.
C'est ça.
On va passer à quelque chose de beaucoup plus effrayant maintenant. Et on va écouter la bande-annonce.
C'est
annonce.
Effrayant, ça.
C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure.
Votre honneur, peu importe les preuves qui s'accumulent contre eux, la famille Usher est plus forte et plus opaque qu'elle ne l'a jamais été.
Si jamais quelqu'un vient nous chercher des noises, nous sortirons tout notre arsenal jusqu'à ce que la menace soit neutralisée.
Quand tu dis neutralisée, tu veux dire poursuivie jusqu'à l'oubli ou...
Neutralisée ou mort.
Super, on devrait dîner ensemble plus souvent, ça nous met du baume au cœur, ce genre de choses.
Roderick Usher. Votre famille est composée de cœurs atrophiés. Le moment est venu.
Qui êtes-vous ?
Des conséquences. Et ce soir, c'est vous qui entraîne des conséquences. Il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec ton père.
Ton frère est mort.
C'est tragique, mais rien de mieux que quelques tweets attristés pour s'attirer la sympathie des gens.
Ce n'était pas un accident. Ce sont bien des attaques. Et cette femme sait absolument tout.
C'est l'heure, Roderick. Qu'est-ce que vous avez fait ?
J'ai bien peur que vous ne soyez témoin de ma pénitence, mon vieil ami.
De toute façon, j'ai aucune fringue pour un enterrement. Non, attends, c'est du putain de satin! Le satin, c'est la soie pour les pauvres! Et tu portes pas ça à un enterrement, sauf si t'es mort dedans!
On est en sécurité?
Si on ne met pas un terme à son sale petit jeu, tu n'auras plus de famille.
Franchement, je crois que tu as oublié qui j'étais.
Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus.
Qu'elle repose en paix.
Il s'agit de la maison...
De la chute.
Oui,
bim,
bah, j'ai foiré le titre. J'ai foiré le titre.
The Fall.
The Fall of the Usher House, je sais pas. C'est une mini-série qui compte 8 épisodes de 60 à 77 minutes. C'est créé par le fameux Mike Flanagan, dont
oui
on a parlé tout à l'heure.
Incroyable.
C'est 12 et...
Non, c'est sorti le 12 octobre 2023.
Oh là là, je suis fatigué. Et c'est dispo sur Netflix. C'est basé sur des œuvres d'Edgar Allan Poe. Et cette série malfaisante suit une dynastie familiale qui s'effondre lorsque ses héritiers commencent mystérieusement à mourir. Donc, c'est l'adaptation, comme je l'ai dit, de la nouvelle d'Edgar Allan Poe. Et Mike Flanagan, en fait, je vais me faire que répéter des trucs qu'on a déjà dit, est aussi le créateur des séries The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Et là, je vais faire un petit peu de contexte.
D'histoire.
D'histoire.
Contexte. Ah oui. On était obligés, tu vois. Forcément.
Ça va dans le thème.
La série fait écho à la crise des opioïdes, dont on parle assez peu en France, mais qui a été un vrai scandale aux États-Unis. Les opioïdes sont une substance de synthèse prescrite légalement comme l'oxycodone ou l'hydrocodone, ou illégalement sous forme d'héroïne. Et ces produits s'avéraient être très addictifs. La crise a débuté dans les années 90 en raison de la prescription excessive de médicaments antidouleurs, alors qu'évidemment, les groupes pharmaceutiques avaient connaissance de la dangerosité de ce produit. L'abus d'opioïdes a entraîné une augmentation significative des overdoses et des décès liés à ces substances. Cette crise a incité des mesures législatives et des initiatives de santé publique pour lutter contre l'abus d'opioïdes et fournir des traitements aux personnes affectées. Entre 1999 et 2018, les opioïdes auraient tué 500 000 personnes aux États-Unis. Et dans la chute de la maison Usher, l'oxycotin est un des principaux médicaments prescrits dans la vraie vie et renommé ici le ligadone, dont on en parlait très souvent.
Oui.
Qui commence à parler de ça ?
Oh bah écoute, je veux bien moi. Cette chanson. Non, mais vraiment, il y a des gens incroyables parce que les séries de Mike Flanagan sont incroyables. C'est encore les frères The Newton. Non, c'était quoi? Comment je les ai appelés tout à l'heure? Alors, attends. Je me rappelle plus de leur nom. C'est encore les The Newton Brothers, en fait. J'avais raison, c'était bien ça. Qui font la musique de cette série également. Mmh. Elle est trop, trop bien. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, le casting qu'on avait dans The Haunting of the Hill House était le même que dans The Haunting of Bly Manor. Et on retrouve encore une partie de ce casting dans La Chute de la Famille Usher. Donc c'est vraiment... ça tourne, quoi. Mmh. Ils s'entourent des mêmes personnes et c'est trop, trop bien. Des trois séries de Mike Flanagan que j'ai vues, celle-ci est peut-être celle que j'ai le moins aimée. Alors, ne me criez pas dessus. En fait, je crois que je l'ai moins aimée parce qu'elle parle de monstres qui ont tous les droits et aucun remords, mais des monstres bien réels. Genre, ils existent, ces gens-là, tu vois. Elle est trop ancrée dans la réalité et dans notre quotidien. Et du coup, elle dérange. Vraiment, moi, elle m'a grave dérangée. Mais en même temps, voir cette famille payer son dû avec quelque chose d'un peu plaisant, tu vois.
Oui.
Vraiment satisfaisant. J'avais envie de leur dire, bien fait pour toi. Shame of you. Chacune des morts est plus horrible que la précédente. Et
ah
on
ouais
se demande... Bah, je trouve...
Je dirais après, mais je suis pas d'accord.
Non, bah, en vrai, moi, je trouve... Non, ok, la première est la pire. Mais je trouve qu'en fait, je me demande où... Tu vois, c'est issu d'une nouvelle, mais je me demande où a été tirées ces idées, tu vois. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces... Ouais, je me suis dit, visuellement, elles sont incroyables, ces morts, mais c'est vraiment impactant. Vraiment, c'est toujours des trucs... Et les révélations finales de la série sont vraiment très bien. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être désolée pour les Usher. En fait,
ah, t'as été désolée par un moment ?
Bah, y a un peu des moments où tu te dis potentiellement, peut-être rédemption, potentiellement, quand on va voir les révélations, on a peut-être une partie de l'histoire qui fait qu'il y a une raison. Et en fait, quand t'as la révélation, en fait, quand tu sais ce qui s'est passé, eh bah, j'ai aucune empathie. En fait, pour ces gens.
Bah oui.
Tout ça a été mérité. Personne n'aurait fait le choix qu'ils ont fait. Personne ne manque autant d'empathie pour sa famille, sa descendance et le reste du monde aussi. Vraiment. En tout cas, personne que je rangerais dans la catégorie des hommes et des femmes, des humains. Pour moi, c'est pas des humains, en fait. C'est vraiment des monstres.
Des grosses
merdes. Non, c'est genre des monstres.
Oui,
et ce que j'aime bien, en fait, c'est que la série, à un moment, nous explique que c'est pas les seuls, en fait. Et il montre du doigt des industries qui existent. Monsanto, pour ne citer qu'elle.
Monsanto est cité.
Monsanto est vraiment cité comme ça sur la page. Aucun remords. Balance.
Aucune peur.
Balance ta entreprise de merde.
Après, Monsanto a été condamné, donc en vrai.
En plus.
C'est pas. Voilà, on peut le dire, quoi.
Oui. Et vraiment, le plus de la série, par contre, c'est vraiment la musique que vous entendez actuellement. Avec ma douce voix, non, derrière ma douce voix, c'est encore The Newton Brothers, comme sur The... Et en gros, la chanson, elle s'appelle Fairy Tale, celle-ci. Et il y en a d'autres qui sont vraiment bien. Je crois qu'il y a... Je les avais notées tout à l'heure ? Non, j'ai noté que Fairy Tale parce que c'est elle que je voulais mettre en arrière-plan en musique, mais elle est vraiment bien. Et j'ai hâte de l'écouter tout le temps. Pour un petit livre horrifique, là... Topissime. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Amy ?
Ben moi, je suis ravi parce que je peux enfin appuyer sur ce bouton.
J'ai trouvé que c'était une critique du capitalisme, ça m'a beaucoup plu.
J'attends ce truc depuis des mois. Oui, parce que derrière ces aspects de série horrifique un peu mélangés à Succession...
Ouais, même si t'as jamais vu Succession.
Non, mais
quoi.
Je sais de quoi ça parle. La chute de la maison Usher est une grosse critique des géants pharmaceutiques qui méritent environ aucun respect. Je pense au dialogue final entre le frère et la sœur Usher, qui les présente comme les deux pires crapules qui ne souffrent d'aucun remords, qui se persuadent de sauver le monde alors qu'elle les empoisonne, on rappelle.
Ouais, aucun problème.
Et pire, qui se convainquent que le problème, c'est nous, en niant que c'est ces gens qui ont créé un système pour nous rendre dépendants à leurs produits.
Oui,
donc en fait, ils ont créé un truc et ils disent « Ouais, c'est de votre faute. »
Ouais, c'est de votre faute, pourquoi
vous prenez ?
C'est
toujours la faute des autres, mais jamais la mienne, quoi.
Mais surtout la faute des pauvres.
Des pauvres.
Ah, toujours la faute des pauvres.
Il y a quelques longueurs, j'ai l'impression de le dire à chaque fois quand on regarde une longue série.
Principalement le dernier épisode.
Ouais. Mais même si je passe un bon moment la plupart du temps, j'en ai marre en fait des séries qui font traîner leurs récits pour répondre à un cahier des charges. J'ai vraiment trop l'impression qu'on dit faut faire des 8 épisodes d'une heure. Ou alors ça fait stylé de faire 8 épisodes d'une heure.
Non,
et
moi je trouvais que là c'était logique. Parce que en fait, il a 6 enfants, il y a 6 décès, oui. Un épisode d'intro, un épisode de conclusion, 8 épisodes.
Oui, je sais bien,
épisodes.
Mais peut-être que 45 minutes aurait suffi.
Ouais. Mais le dernier épisode était vraiment long.
Ouais, c'est vrai. Mais heureusement, la narration est très prenante. Je me suis pas non plus ennuyé pour autant. Et elle offre assez de révélations à chaque épisode pour nous tenir en haleine. Ça évite le « on lâche zéro info pendant cet épisode et on balance tout dans le dernier
ouais. ».
Coucou les anneaux de pouvoir. Les scènes d'horreur sont plutôt bien dosées. Il n'y a pas de moment vraiment ultra choquant. Ou alors, il n'y a pas de moment...
La scène de meurtre de l'épisode, la scène de décès de l'épisode.
C'est,
2,
oui, c'est peut-être la seule. Elle est traumatisante, mais moi je retiens qu'un truc, c'est Shining m'a traumatisé. Il y a beaucoup de moments où c'est horrible. Et là, il y a pas ça.
Ouais.
Il y a quand même pas mal de jumpscares.
Ah,
c'est toujours
énormément.
Une astuce facile pour faire peur.
Mais moi ça me fait flipper.
Moi,
il y a pas de bruit d'un coup
ça.
Comme ça. C'est trop facile, mais ça marche.
Ça marche trop.
Mais les moments les plus effrayants, je crois que c'est quand il y a des apparitions fantomatiques floues en fond.
Oui, mais
d'un coup, il y a une silhouette floue et tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe encore ?»
Ils font ça aussi dans le Bly Manor. C'est genre, des fois, t'as des moments et en fait, tu te rends compte qu'il y a, genre quelqu'un qui vient de passer derrière.
Il se passe quelque chose
genre, derrière. T'es sur un perso et t'as un truc qui se passe en arrière-plan et t'es là « Non !»
Et quand est-ce qu'on va le voir de près ?
Non.
Et, c'est très bien fait parce que ça crée une attente immédiate et une tension.
Ça met la pression, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Et ça, j'ai bien aimé. C'est très classique quand même, mais ça fait vraiment flipper. Il y a des scènes de mort qui sont ultra bien inspirées.
Toutes enfin,
je trouve que la première et la dernière sont les meilleures. La dernière avec le gars qui est découpé par un...
Ah, moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est comment ça se... Visuellement, comment ça a été filmé.
Ben alors,
on est dans les yeux de la personne. En gros, le mec est allongé comme ça, et il y a tout qui lui tombe dessus.
Ouais, c'est comme si
comme si tu te faisais proprement écraser.
Oui.
Non, l'avant-dernière aussi, la scène avec les miroirs.
Elle est très belle.
Elle
mais
est trop belle.
Elle est pas,
c'est incroyable
elle est
que
pas
je dise
horrible.
Une scène de mort est trop belle. Tu vois.
En fait, la mise en scène est hyper belle. C'est très ralenti, c'est très très beau.
Ouais.
Mais c'est pas non plus une scène de mort.
Celle qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'était la première. Et celle avec le.
Oh, oui, j'avais oublié celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Enfin, elle est pas incroyable, elle est glauque, horrible.
Au possible.
Et ça parle d'un cœur artificiel, elle est affreuse. Elle est affreuse.
Mais il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais regarder, mon sang ? Tu vas regarder un truc où il y a 6 personnes qui meurent de façon différente.
Wow.
Toujours est-il que je trouve que ça manque. C'est dommage qu'elle soit pas tout aussi mémorable. Et c'est dommage.
Bah, tu peux pas aussi niveau imagination, faut en avoir un sacré.
Ah bah oui, mais bon,
vraiment.
C'est leur métier.
Après, moi je pense que peut-être qu'ils avaient tellement mis dans la première que après le reste paraît
un peu mollo quand même.
Non, parce que le cœur elle est hyper impactante ou le ventre coupé elle est hyper impactante. C'est... Il y a celle du chat par exemple que tombe d'un immeuble quoi. C'est pas non plus.
Ouais, enfin avant il se fait quand même bouffer des doigts et des trucs par un chat
oui,
dans sa
c'est...
tête.
Comme le singe, le singe déjà c'est hors champ. Et le singe,
bah encore heureux que ça soit hors champ.
Oui,
mais
oui.
Le singe c'est normal, c'est la vengeance du règne animal sur
lui. Oui non mais
humains.
C'est hyper bien. Non mais toutes les, je dis pas qu'il y a des morts qui
mais
sont.
Mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Je dis pas
qu'il dire qu'il y a un chat et un singe qui a bouffé des hommes.
Possiblement.
Bon, moi de toute façon dès qu'il y a des animaux maltraités qui se vengent, moi je kiffe. Hein.
Ah oui non. Mais je...
et enfin les révélations sont vraiment pas décevantes. Et dans ce genre de série, c'est rare que je sois pleinement satisfait des révélations. Et même si c'est un peu un « ta gueule, c'est magique », eh ben ça me dérange pas.
Bah ça passe.
Moi, ce qui me plaît, c'est que vraiment, ils ont dit oui. Ils ont signé. Ils ont dit « ok, no suicide ». Ils avaient toutes les cartes en main et ils ont dit oui.
En gros, littéralement, les deux ont fait un pacte avec le diable.
Oui, c'est ça.
Et on... Allez, on spoil, allez, on dit.
Non, mais c'est...
À moins que tu veux la regarder.
Peut-être qu'elle pourra.
Bon,
en fait, c'est pas ultra important pour l'histoire.
Ouais,
moi, je trouve. Moi, je savais que depuis le début,
pas.
C'était ça.
Ok. Et ben, en gros, le diable leur dit est-ce que vous voulez être riche toute votre vie et avoir que des réussites, mais vos descendants vont mourir
en même temps que vous.
En même temps que vous.
Quand votre mort va approcher, un par un, ils mourront.
Et ils ont signé en s'assurant.
Et ils disent, bon, ok.
Ils ont de la descendance.
Bah, la
oui,
sœur,
mais
elle.
Ils meurent tous, du coup.
Oui, mais en gros, ils ont signé. Enfin, par exemple, le pire, c'est Osher, en fait. C'est l'homme qui lui signe en sachant qu'il avait déjà deux enfants. Oui.
Ah, mais c'est pas. Parce que moi, du coup, j'ai vu que les cinq premières minutes. J'ai pas fait trop mon travail. Mais à un moment donné, on voit, du coup, un monsieur un peu âgé qui voit une espèce de femme masquée. Mais sa petite fille la voit pas. Est-ce que c'est elle, du coup, que.
Oui, c'est. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, ce film, il m'a aussi. Enfin, cette série m'a fait trop penser à La vie d'Adil Haroui parce que c'est pareil, c'est un pacte avec le diable. Et ça tourne toujours autour de ces trucs. Mais Alan
Et
Poe
d'ailleurs, il y a un moment où, quand le diable leur fait cette proposition, elle dit un truc. Et du coup, ça dézoome un peu vraiment et on est plus sur leur vie, mais sur tous les puissants de ce monde. Elle dit. Est-ce que vous êtes prête à littéralement vous en mettre est-ce que vous êtes prête à vous en mettre plein les poches, à avoir que des réussites au détriment de la vie des autres? Et littéralement, c'est est-ce que vous êtes prêt à détruire la planète et que l'humanité va s'éteindre. Et eux, ils disent bah ouais.
Et ouais, parce qu'ils s'en foutent.
Et après, juste après, on revient à leur histoire et précise. Mais il y a juste ce moment où ça, c'est le genre de truc qui me parle à fond. Donc, j'aime bien.
Je crois que c'est même pire que ça parce que t'as le truc où, en gros, elle leur dit êtes-vous prêts à renoncer à... Donc, elle leur dit êtes-vous prêts à vivre dans l'opulence, ne manquer de rien et vivre
oui,
dans
ça,
la richesse
oui, raison,
toute
exactement.
Votre vie ou... Et mais du coup, vivre une vie où vous ne serez jamais impliqué, vous n'irez jamais en prison, la loi ne vous rattrapera jamais, donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez.
Ah, ouais.
Ça dit
oui,
ça aussi
vrai,
le contrat.
C'est vrai.
Ou vivre une vie normale. Et en plus, c'était vivre vieux, là, il devait vivre vieux. Ou alors vivre une vie normale, mais bah, travailler, trimer, avoir du bonheur, de la déception, enfin une vie normale,
oui,
tu
voilà,
vois.
Comme les vrais gens, quoi.
C'est ça. Et eux, et après, elle leur dit, ça sera contre votre descendance. Et elle a pas d'enfant. Et elle dit, je sais pas, tu vois, genre, elle réfléchit.
Ouais.
Et lui, la première chose qu'il dit, c'est.
C'est
oui,
tout réfléchi.
Okay. C'est tout réfléchi, je signe, tu vois. Alors que lui, il a des enfants. Donc
il a pas pensé un seul instant à ses enfants, quoi.
Et en fait, le truc qui est ouf, c'est que quand vient le jour où ça arrive, et bah, ils pensaient que, genre, ils avaient. Pour eux, ils avaient juste une conversation avec une meuf dans un bar. Ils pensaient pas que c'était réel, tu vois.
Hein?
Et puis ça arrive, ça se produit, et ils y croivent pas. Jusqu'à la dernière minute, ils y croivent pas. Ils se mettent à y croire au moment où il y a tous ces gamins qui sont morts, et ils pensent encore que c'est pas ça, tu vois. Ils continuent à être
dans le déni.
Et ils se rendent compte que c'est vrai au moment où elle vient et elle prend sa petite fille. Parce qu'il avait pas compris dans sa tête que sa descendance allait jusqu'à là, tu vois.
Il pensait que c'était un complot un peu contre son entreprise et tout.
C'est dans le déni tout le temps, et c'est ouf.
Parce qu'il lui dit, il serait jamais capable de se dire que c'est sa faute à lui, en fait.
C'est ça.
C'est
et
vrai.
La dernière phrase est trop bien, la dernière phrase de la série, c'est le monsieur de... c'est pas un policier, tu disais que c'était un procureur.
Un juge d'instruction.
Juge d'instruction qui arrive et qui leur dit...
Peut-être un proc, ah, je sais plus.
Il y a cette phrase qui dit, vous pensiez être riche, mais finalement c'est moi qui suis riche.
Ah oui.
Et c'est une phrase qui est incroyable, parce qu'en fait peut-être que lui, les Osher étaient riches d'argent, mais ils étaient pas riches du reste. Et en fait, ce qui est important, bah, c'est ta famille, c'est ta... Lui, il dit, je vais rentrer voir mes enfants, mes petits-enfants, et c'est moi qui suis riche. Mmh. Et je trouve que la série se conclut incroyablement bien en disant ça. C'est qu'en gros, ces gens, ils connaîtront jamais l'amour. Et d'accord, personne, il n'y en a pas un de ces enfants ou ces petits-enfants qui est heureux. Ils sont tous malheureux, il n'y en a pas un qui est stable émotionnellement. En fait, ils pensent avoir tout, et en fait, ces gens n'ont rien. C'est trop bien.
Vous entendez là-haut ? Vous n'avez rien.
Vous n'avez rien.
C'est tout bon pour
ouais,
la chute de la maison
Usher.
J'espère
que Maëlys regardera quand même.
On l'a tout raconté.
Non, on n'a pas tout raconté.
Il y a plein de choses
à
voir. Il y a plein de choses à voir. Et c'est vrai que là, la finalité
choisir,
n'est pas...
À choisir, tu peux regarder Bly Manor quand même. Au moins, je t'ai moins spoilé.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais tente un peu plus, effectivement.
On peut maintenant passer aux recommandations et aux nouveautés du mois de novembre.
Ça recommande, c'est nouveau, c'est
ça
en novembre. Ça continue Loki, saison 2 sur Disney+, encore 2 épisodes, on a tout à regarder. Maëlys a déjà bien avancé.
Eh oui, ah, t'es dans le rythme, épisodes. Toi. Eh oui, il m'en reste encore 3, du coup, ça finit le 6 novembre, ce que j'ai entendu.
Parfait.
Je crois.
Bah, il en reste 2, donc oui, ça doit être ça. Hein.
Non, parce que le 9...
Ça sort quand?
C'est le 2 novembre le prochain, et donc après, c'est une semaine d'après.
Bah, c'est ça. C'est exactement ce que Maëlys vient de
dire. Elle a dit le 6.
Oui, j'ai dit le 6, effectivement. Je me suis trompée, c'est le 9.
Merci.
Oh, c'est le même chiffre à l'envers.
Voilà.
Vraiment.
Merci de me sauver.
Bonjour, la mauvaise foi.
Ça continue également. Les carnets de l'apothicaire saison 1 sur Crunchyroll. Alors, il y a déjà... Attends, il reste encore 19 épisodes.
Ah oui, non, mais il reste une éternité d'épisodes. Hein.
Alors, il y a déjà... Ils ont sorti 3 épisodes
d'un
coup.
Ça se finit à peu près en avril 2026, je crois.
ils ont sorti 3 épisodes pour commencer. Donc, vous pouvez rattraper.
Il y en a 25 en tout.
Mais ils vont couper en middle saison, non?
Je sais pas. Moi, j'étais voir sur Captain Watch, ouais, nos amis Captain Watch, des amis
couper.
Du podcast. C'était écrit que ça... Voilà.
Oui, des amis, c'est vrai. Et Spy X Family a également repris la saison 2 sur Crunchyroll. Encore 8 épisodes, mais je suis à la bourre de ouf, surtout. J'ai pas repris non plus.
Moi non plus, je me suis arrêtée au milieu de la saison.
Ah, moi j'ai fini quand même. J'ai été jusqu'à la fiesta dans le château.
Oh.
Non, mais je peux spoiler, Maëlys a lu les livres. Moi non.
Oui, je suis à jour presque. Il me manquait le.
Et moi je m'en fous un peu. Donc.
Ouais, voilà, donc on est bon. Et puis c'est nouveau, ça débarque, ça arrive en novembre. Le 1er novembre, pour ce jour férié.
Oui.
Pour passer une bonne journée, nous vous proposons de regarder Voleuse, un film français sur Netflix qui fait 1h54.
Oh là là, on part sur les accents. Non, pas les accents.
Ça part tout seul. C'est une comédie d'action de Mélanie Laurent.
Ça a l'air trop bien.
Ouais, vraiment, il a l'air sympa. Mm. Et il a l'air amusant. Le 2 novembre, il y aura Onimusha saison 1 sur Netflix. C'est 24 minutes.
Je sais plus. Il y a
combien d'épisodes ?
Impossible de trouver le nombre d'épisodes.
C'est un animé médiéval adapté du jeu vidéo de Capcom. Alors, je connais pas Capcom.
Moi non plus.
C'est un studio de jeux vidéo très, très important.
Ok, bah je connais pas du tout. Peut-être que ça peut être bien.
Vite parler par tes connaissances, mais c'est tout.
Toute la lumière que nous ne pouvons voir, la saison 1 sera dispo sur Netflix également le 2 novembre. Ça sera 4 épisodes de 60 minutes. C'est une série sur des destins croisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, j'ai entendu parler de ça. Mais c'est moi qui l'ai mis en vrai.
Bah oui.
C'est pour ça. Non, mais j'ai regardé la bande-annonce tout à l'heure, ça avait l'air sympa.
C'est avec Mark Ruffalo. Et tout le monde aime Mark Ruffalo.
Possible, je sais pas qui c'est.
Hulk dans le MCU.
Ah oui, ok, ça va. Mmh. Tu vois, il faut donner des choses qu'on connaît.
Donner des références.
Ouais, sinon ça marche pas. Les noms, juste les noms.
Ouais.
Gradis Kretek. Alors ça aussi, c'est moi qui l'ai mis. C'est la saison 1, c'est dispo sur Netflix également le 2 novembre. C'est un drama indonésien qui se passe en 1960 où, pendant la création d'une cigarette dite parfaite, deux âmes se lancent dans une romance épique.
Le résumé veut rien dire.
Et ça vous... Mais si, c'est en 1960, en Indonésie, il y a des gens qui essaient de créer une cigarette qui serait parfaite. Bah, j'en sais rien, la cigarette parfaite.
Pas dangereuse pour la santé ?
Non, c'est... je pense que... elle est. J'en sais rien. Et pendant cette création de cigarette, il y a deux âmes qui se lancent dans une romance épique.
Ouais, donc t'as relu le résumé.
Avoue que ça a l'air bien, il y a marqué romance épique.
C'est pour ça qu'elle trouve ça bien, en fait.
Ouais. On n'est pas... Non, rien.
Mais attention, un drama indonésien, vous en avez déjà vu un, vous ?
Non, c'est vrai, ça c'est surprenant.
Eh ben voilà.
Bravo.
Merci. Le 3 novembre, il y aura Daily Dose of Sunshine, la saison 1 sur Netflix. Ça sera 12 épisodes d'un drama coréen dans un hôpital. Ah non !
Bah quoi ?
Faut sortir les mouchoirs, c'est ça ?
Mais non, parce que les dramas dans les hôpitaux, c'est comme Grey's Anatomy. J'ai du mal à regarder Grey's Anatomy en vieillissant parce qu'il y a trop de trucs médicaux.
Je pense que là, c'est... Ça ne peut pas être le sujet. Hein.
On ne sait pas. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est toi. Non
bon, vous jouez les dramas, c'est ton.
Oh, tu sais,
je pensais que c'était toi, Mathilde.
On dit les dramas, c'est pour Mathilde, mon meilleur.
C'est ça.
Bah oui.
Quiz Lady, ça sort également le 3 novembre. C'est un film sur Disney+, qui fait 1h39, une comédie avec Sandra Hou, qui parle de jeux TV. Ah ouais ? J'aime bien Sandra Hou.
Bah, c'est pour ça
parce que c'est Grey's Anatomy.
Bah, voilà. Non, tu pourrais dire aussi que c'est.
Non, c'est
Killing Eve.
Principalement Killing Eve. Il faut que je regarde la suite, tiens. Merci de m'y faire penser. Je suis en train de finir toutes mes séries, là.
C'est bien.
Ouais. À la prochaine, le mois prochain, je vous parle de The Mrs. Miss...
Mais... On le fera à ce moment-là.
Ouais. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est une dame, elle est humoriste.
Waouh, le teasing ici.
Le pire résumé de Missy Mouchel.
Mais je vous ai dit que j'étais très, très bonne pour faire des résumés nuls. Je vais me reconvertir en ça. Dommage que c'est pas un vrai métier. Le vendredi 10 novembre, il y aura The Killer Film. C'est un film sur Netflix qui fait 1h59. C'est un thriller policier de David Fincher.
David Fincher. C'est un très très grand réalisateur. C'est fou qu'il fasse un film sur Netflix.
Oh, je suis incroyablement surprise.
Il a fait Zodiac, on a déjà parlé ici.
Ouais, mais j'aime pas trop ce genre de film.
C'est avec Michael Fassbender.
Hein ? J'ai l'impression que t'avais dit un truc dans une autre langue, j'ai rien compris.
C'est avec l'acteur Michael Fassbender. Un peu cancel apparemment, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais bon, c'est un autre sujet.
Je sais pas qui c'est, si tu me dis pas dans quoi il joue.
C'est Magneto dans les, okay, dans les jeunes X-Men.
Ah oui,
dans les jeunes X-Men.
Non, mais tu vois,
Ian McKellen, intouchable.
Oui, non, j'ai compris. On a compris. Samedi 11 novembre, un jour férié où nous travaillons.
Eh oui, malheureusement.
The Curse.
The Curse.
Saison 1 sur Paramount. Ça fait 10 épisodes de 30 minutes. C'est une comédie avec Emma Stone en un couple avec des galères et filmé 24 heures sur 24 par une équipe de télé-réalité.
Oula.
C'est marrant parce que le titre, ça me fait penser à un roman où on suit une héritière du roi Arthur. Ça n'a rien à voir, mais c'est le même
cursed.
Titre. C'est pas ça ? C'est Curse ?
Là, c'est The Curse.
Ouais, ça ressemble quand même.
Emma Stone, il faut resituer ou pas ? C'est bon, ça va ?
Non, mais ça
devrait le faire.
Ça devrait... Ouais, mais j'aime bien l'idée de Emma Stone, j'aime bien l'idée de couple et
ça
j'aime bien
rigolo.
Galère et filmé H24. Ça a
oui.
l'air marrant.
Oui.
Ça peut me plaire. C'est sur quoi ?
Paramount
Plus. Oh, bah, encore un truc, voilà. Bravo.
Qui a pas encore dit qu'ils augmentaient les prix.
Non, mais en même temps, ils viennent d'arriver. Alors s'ils commencent déjà à augmenter leurs prix. Mardi 14 novembre, un meurtre au bout du monde, la saison 1 sur Disney+. 7 épisodes de 60 minutes, un drame enquête par les créateurs de The Hoey. Alors. T'as mis Disney+.
C'est sûr, c'est du sur Disney+.
Parce que moi, j'ai pas vu que c'était dispo en France.
Moi, je lis le communiqué de presse mensuel de Disney+.
Ah ouais ?
Sur les sorties.
C'est vrai ?
Oui.
Et du coup, c'était dessus ?
Oui.
Ok, parce que moi, il y a vraiment marqué Ulule.
Oui, bah du coup, c'est une série Fox, donc ça doit être une série Star.
Parce que vraiment, bien évidemment que moi, une série par les créateurs de The OA, j'ai envie de la regarder. Mais je savais pas où elle était dispo.
Disney+.
Elle sera dispo le 14 novembre.
Oui.
Mercredi 15 novembre, Tout va bien, saison 1 sur Disney+, 8 épisodes de 52 minutes, série française avec Virginie Efira, ça fait penser à This Is Us. Alors, oui.
Mais en fait, non.
Et non. Parce que j'ai regardé la bande-annonce.
Oui, moi aussi.
Et non. Non, vraiment pas du tout. Mais ça me donne envie de regarder This Is Us, une autre histoire pour un autre moment.
C'est très bien quand même. Ça donne aussi envie de regarder Tout va bien.
Oui, ça me donne aussi de regarder Tout va bien. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de maladie.
Oui.
Ça me stresse un petit peu, les hôpitaux. J'ai vu qu'il y avait des moments dans des hôpitaux, mais en même temps, ça a l'air pas mal. Et c'est français.
Et il y a Virginie Efira.
Oui, il y a Virginie Efira qui jouait également dans Beau Jungle.
Oui.
Voilà.
Mais pas ouf, ce film.
Oh, tout de suite.
Non, j'étais déçu.
Bah, je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai pas lu le bouquin. Je peux pas comparer avec quoi que ce soit. Oh, j'ai pas lu le bouquin. Ne dites pas ça à des gens. Jeudi 16 novembre, la grosse annonce. Il y aura The Crow, la saison 6, la partie 1 sur 10, sur Netflix. Moi, je mélange tout. 10 épisodes de 60 minutes. Attends, non. Il n'y aura pas les 10 épisodes
je
de 60 minutes.
Je ne sais pas comment elle fait le découpage.
5-5.
D'accord.
5-5.
Vraiment.
Ah, j'ai trop mal au bras. Ça,
elle joue au poker. 5-5.
5-5. Oui, la partie 1 sera disponible le 16 novembre et la partie 2 en décembre.
C'est pas encore fini, cette série ?
Ça va, ouais. C'est la dernière saison.
D'accord.
Et on adore cette série, parce que ça parle de la royauté. Et la royauté, c'est notre dada. Mon dada. J'adore ça. J'adore les potins. Vendredi 17 novembre, Scott Pilgrim prend son envol. La saison 1 sur Netflix, 8 épisodes, série d'animation. On en avait déjà parlé le mois dernier. Je vous avais dit à quel point ça me hypait de ouf. Je pense que ça hype de ouf Damien. Je pense que si Damien avait été là, il aurait dit j'ai trop hâte de regarder Scott Pilgrim parce que je le connais par cœur.
J'ai appris que le casting vocal, c'était le casting du film.
Oh, j'ai trop encore plus hâte. Donc je la garde en VF.
Michael Cera qui reprend le personnage.
D'accord.
Je crois que c'est ça son nom.
Bah, je vais regarder en VF, alors je vais voir. Un Noël pas comme les autres, film sur Disney+, 1h32, film de Noël en novembre.
Oui.
Allez,
ah
let's
bah,
go.
Ça y est, la saison est ouverte. Hein.
Et ben voilà, c'est ouais. Parti. Bah, je regarderai mon premier film de Noël le 17 novembre alors.
C'est avec un acteur de Fast and Furious.
Oh non. Oh non, qui
c'est? Pas le même thème. Hein.
Oh non, mon Dieu.
Peut-être qu'il y aura la famille comme thématique commune.
Ton humour est irrésistible.
Je suis en train de me demander qui dit cette phrase.
C'est Juan.
Ah oui, c'est Juan. J'étais en train de me dire, je connais cette voix. Undo Stress, les amis. Monarch Legacy of Monsters saison 1 sur Apple TV+, 10 épisodes de 60 minutes, c'est un spin-off du Monsterverse. Alors ça, j'ai vu un truc, il y a des kaijus.
Bah oui, c'est lié à l'univers de Godzilla, alors, des récents films Godzilla et de Kong Skull Island.
Du coup, c'est une série, parce que j'ai vu la bande-annonce oui. Et j'avais pas capté si c'était une série ou si c'était un film.
Non, une série, et je suis... C'est trop long pour moi.
Pourquoi ?
J'ai très envie de regarder, mais c'est trop long.
Non, non, mais oui, 10 épisodes de 60 minutes, ça fait 600 minutes. Hein.
Bien joué.
Ça fait donc 6 heures.
Oui, non, c'est trop long.
6 heures à passer à regarder un truc... non.
Surtout qu'à mon avis, c'est une série, donc il va pas y avoir des kaijus tous les quarts d'heure comme dans les films. Ça va, à mon avis, on va surtout suivre des humains.
Possible, oui.
Parce que ça parle de Monarch, l'entreprise qui savait qu'il y avait des kaijus et qui a pas dit... Et donc, à mon avis, ça va surtout être. Voilà.
Ils essayaient de gagner de l'argent avec les kaijus.
Bah oui, parce que le but, c'est. Oui, je crois. Pas dans.
Genre, les kaijus, ils
Godzilla
faisaient.
Godzilla versus Kong, c'est un délire comme ça.
Ouais. Mais oui, je crois que c'était genre. Ça peut faire de l'électricité, ça peut faire de la chaleur, tu vois.
Oui, c'est un couteau suisse, quoi, le truc.
Si on peut chauffer le monde avec un kaiju.
C'est vrai.
Oui, ça n'a rien à voir, mais moi, quand j'ai été sur le site d'Apple TV tout à l'heure. J'ai cru comprendre qu'il y avait un film Napoléon qui sortait.
Oui, j'en ai entendu parler.
Mais il sort au cinéma.
Oui, au cinéma.
Bah, je sais pas. Enfin, oui, j'ai pas suivi.
Pas d'avoir les trailers sur YouTube.
Il y a un film Napoléon avec Joaquin Phoenix.
Mais moi, ce que je comprends
mais
pas...
Mais je savais pas qu'il sortait pas au cinéma.
Mais ce que je comprends pas... Mais en fait, je pense qu'il sort au cinéma, mais je comprends pas pourquoi c'est, de la... pourquoi c'est Apple TV qui en fait la pub comme si c'était leur film, comme si c'était un film Apple TV, mais qui sortirait au cinéma.
Je n'en sais rien.
Ouais, et bah, on va suivre. J'ai envie d'enquêter et je ne comprends rien.
Je peux vous dire que je connais presque la bande-annonce par cœur parce que je l'ai tout le temps sur YouTube.
Et bah, moi, je l'ai jamais vue.
T'as pas Adblock ?
Non, pas sur téléphone.
Ah,
voilà, exact. Là, triste.
Du coup, ils vont se faire piéger sur un lac gelé si vous voulez l'avoir l'information.
Après,
voilà.
après, c'est à peu près les cours de 3e.
Après, t'as dit que c'était avec Joaquin Phoenix ?
Oui.
Le même qui a joué dans.
dans Joker ?
Ouais.
Oui.
Bah, j'aime bien cet acteur, même s'il est un peu étrange.
Oui, mais c'est plus qu'en fait, il aime pas les paillettes.
Les gens. Ouais, bah après, je le comprends.
Mais
moi, j'aime
vegan.
Pas trop ça non plus. Bah, c'est cool.
Voilà.
Mmh. Un point en plus.
Oui.
Protection animale, tout ça, tout ça. Le 25 novembre, il y a Docteur Who, la créature stellaire sur Disney+. C'est un épisode spécial d'une heure. C'est trop bien. Voilà. C'est pour fêter les 60 ans de Docteur Who. 60 ans. Vous vous rendez compte ?
C'est la plus vieille série de science-fiction du monde.
The best. Et le 28 novembre, Love Like a K-Drama, saison 1 sur Netflix, 12 épisodes drama coréen sur les acteurs et actrices de coréennes.
En fait, c'est un document ou une télé-réalité ? Ouais.
Est-ce que c'est comme le truc où ils vivent tous dans une maison et en fait, ils ont le droit de sortir, mais c'est quand même une télé-réalité ?
Je sais pas trop.
Ouais, je sais pas non plus.
Je pensais l'avoir enlevé pour être franc.
Ah ok, ah bah sympa. Bah voilà. Donc moi j'ai envie de regarder quelques petits trucs, mais après ça me hype pas de ouf tout ce qu'il y a le mois de novembre.
Les films ont l'air bien.
Déçu. Les
films ont l'air bien.
Donc je pense que je vais rattraper et finir des trucs que j'ai déjà en cours au lieu de commencer des nouveaux trucs. Genre pause. Et tu poses.
Ah oui, tu poses.
J'ai trop mal
à faire ça au magasin aussi.
Oh non!
Mais elle, ils en peuvent plus.
Non, mais faut pas.
Un jour, je la filmerai. T'inquiète.
Non, ne faites pas ça. Ah non, qu'est-ce qui se passe? C'est le Noël de Monsieur Jack.
Je crois que je l'ai jamais vu en vrai.
Bah.
Je connais l'histoire, mais je l'ai jamais vu.
C'est entre Halloween et Noël. C'est ouais. Parfaitement ce
c'est
qui
vrai.
Résume le mieux
c'est une chanson,
le mois de novembre.
C'est une chanson de novembre, c'est vrai.
Ah,
Ainsi se termine. Oh, c'est très fort. Se termine le 36e épisode du Récapito. On espère qu'il vous a plu. Le mois prochain, on parlera de voleuses. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur le compte Insta de Plaid, sur nos comptes perso aussi, si ça vous dit, sur notre blog plaid.fr. Merci Mathilde.
Merci beaucoup.
Et merci Maëlie, ça s'est bien passé ?
Bah ouais, je me suis bien amusée. Ah. Merci de m'avoir invitée.
Oh. Oh, on fait de la pub !
Ok, allez-y, je vous en prie.
Ah oui, moment pub, attention.
Attention, voilà, on annonce qu'on va créer un nouveau podcast. Bon, ça sera relié à Plaid, parce que voilà, on va pas relier ça à autre chose. Ça s'appellera sa marque page.
Et ouais.
Et du coup, Maëlys sera des nôtres, nôtres de moi. Enfin, j'arrive pas à
voir. Sera mignon.
Sera des nôtres pour
parce
ce podcast.
Parce que je sais pas lire.
Il y aura moi, Maëlys... Et une troisième personne qu'on présentera le jour venu. Et normalement, le premier épisode devrait sortir en novembre.
Tu vas bien.
Voilà, donc le récapito a servi de démarrage à Maëlys pour voir si le podcast lui plaisait. Qu'en est-il ?
Eh bien, je confirme que ça me plaît. Ah. On verra du coup à sa marque page.
Parfait. Donc, on se retrouvera en novembre pour deux podcasts. Pour deux fois plus de bonheur.
Et c'est marrant parce que je crois que le premier récapito c'était en novembre.
C'était exact.
Promis dans sa marque page, elles parleront français.
Ouais, en plus c'est moi qui anime. Oh là là. Oh,
la pression.
La responsabilité. Je lui mettrai une couronne.
Oh.
Je te prêterai ma couronne, t'inquiète. Eh ben, salut.
Bye bye, bonne soirée. Ciao ciao. Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween. Everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Oh man, Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween. This is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this place we call home, everyone hail to the pumpkin.